heureux de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence. Monsieur Claes, le maire de Poitiers, s'est excusé de ne pas être là ce soir, mais il s'est fait représenter par monsieur Latry. Nous remercions les personnes de l'espace Mendès France qui nous permettent de tenir cette soirée. À l'occasion de la 5e journée mondiale des soins palliatifs et de l'ouverture de l'unité de soins palliatifs au CHU de Poitiers, Jeanne Malbe a voulu faire le point sur les soins palliatifs, vous informer et vous permettre d'échanger sur des situations concrètes qui vous préoccupent. C'est pourquoi nous accueillons 3 invités impliqués dans les soins palliatifs et qui vont nous faire partager leurs expériences. Tout à fait à votre gauche, M. Godefroy Hirsch, qui est vice-président de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs, qui est médecin responsable de l'équipe d'appui de soins palliatifs région centre. Il va nous présenter rapidement les lois qui ont statué les soins palliatifs et l'accompagnement, les programmes de développement de soins palliatifs ainsi que les différentes structures existantes en France. Monsieur Montaz Laurent, que vous connaissez certainement puisqu'il est médecin au CHU de Poitiers. Il est actuellement médecin à l'unité mobile de soins palliatifs et maintenant il est responsable de l'unité de soins palliatifs au CHU de Poitiers, cette unité qui va s'ouvrir. Enfin, à ma gauche, Madame Catherine Boisseau, qui est cadre santé, jusqu'à présent était au CHU en pneumologie et qui va être le cadre de santé de l'unité de soins palliatifs et elle nous présentera l'unité de soins palliatifs. Depuis sa création, Jeanne Malbe s'est toujours engagée dans le développement des soins palliatifs pour que les besoins des personnes très malades et en fin de vie soient pris en compte, notamment dans le soulagement de la douleur. Mais il est aussi important de considérer les personnes en fin de vie comme des personnes vivantes, jusqu'au bout. Elles restent membres de la société. C'est pourquoi l'accompagnement est indissociable des soins, et ce n'est pas seulement une affaire de soignants, cela nous concerne tous. Nous savons combien la présence accompagnante auprès de celui qui souffre le soutient dans la traversée de l'épreuve de la maladie. Ainsi, les bénévoles de Jeanne Malbe accompagnent en complémentarité des soignants, les malades, en complémentarité des soignants, les malades et leurs familles qui le souhaitent. Par sa présence, le bénévole représente la société. Il crée un lien de solidarité avec la personne qui l'accompagne, en sachant que chaque personne est unique dans son histoire et que la relation est toujours à inventer. Les bénévoles n'interviennent pas n'importe comment. Ils sont missionnés par l'association Jeanne Malbe qui signe une convention avec les établissements de soins. Nous pourrions être plus présents auprès des malades et des familles si les bénévoles étaient plus nombreux. Aussi, je fais appel à votre générosité et à votre disponibilité pour venir rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la fin de la conférence. Depuis 25 ans, les soins palliatifs et l'accompagnement se sont considérablement développés et structurés et sont devenus un droit légalement reconnu. Citons les lois les plus connues et qui ont révolutionné, notamment celle du 9 juin 1999, qui vise à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. Et c'est dans cette loi qu'à l'article 10, on parle pour la première fois que des bénévoles peuvent venir en complémentarité des soignants, assister les personnes très malades. Enfin, sur vos chaises, vous avez pu voir une feuille qui rappelle la loi du 22 avril 2005, dite loi de Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie. Les soins palliatifs constituent une priorité de santé publique, affirmée par différents programmes pour le développement des soins palliatifs, et dont le dernier programme couvre 2008-2012. Toutes les personnes qui en ont besoin devraient bénéficier aujourd'hui des soins palliatifs, quel que soit le lieu où elles sont, pas seulement à l'hôpital, mais aussi à domicile et en maison de retraite. Alors qu'en est-il? Donc nous allons laisser la parole aux professionnels qui, tous les jours, ont à réfléchir sur des situations parfois difficiles.
On va faire un petit essai micro là. Merci Madame à Simon. Merci beaucoup à vous tous d'être là et merci à Jeanne Malve, jusqu'à la mort accompagner la vie, il faut le dire, parce que déjà en soi, ça donne déjà le sens de cette association, de nous avoir invités et puis surtout de prendre un temps d'échange avec vous, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Alors, on va essayer de lancer la technique. Là, c'est toujours un truc, un challenge. Alors, tiens, ça commence bien. Diaporama, tiens, allons-y. Voilà. Juste quelques éléments d'éclairage autour de ces 10 dernières années. Comme vous l'avez noté, beaucoup de choses ont changé, on va le voir. Beaucoup de choses aussi restent à faire. Mais peut-être que ça va nous permettre un petit peu de nous fixer les idées. Alors, d'abord, partons du général. L'état des lieux, vous savez, en France, 60 millions d'habitants, on a entre 550 000 décès par an. Maintenant, les tumeurs sont la première cause de décès. Et globalement, on estime, c'est à très grosse louche, que globalement, 150 000 personnes par an décèdent d'une maladie ou de situations qui nécessiteraient des soins palliatifs. Donc on est quand même sur cet ordre-là de besoins dans la population française. Autre élément important, c'est qu'une enquête d'opinion, maintenant qui date déjà d'assez longtemps, montre au moins le souhait exprimé des Français de pouvoir décéder à domicile, hein, puisque 70% d'entre eux le souhaitent. On verra que ce n'est peut-être pas aussi simple que ce simple souhait-là. Et puis, comme vous l'avez cité, Madame Simon, on va y revenir, nous avons la chance en France de faire beaucoup de lois, beaucoup de textes. Alors c'est une chance, mais c'est aussi une lourdeur, parce que vous savez qu'il y a à peu près 20% des lois qui ne sont pas mises en œuvre. Mais en tout cas, nous pouvons nous appuyer sur un corpus, notamment réglementaire, et sur, on va le voir peut-être aussi, une dimension de volonté politique. Alors avant de parler de soins palliatifs et d'accompagnement, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire, de quoi parlons-nous ? Peut-être que le plus simple, c'est de reprendre les termes qui existent dans la loi. Une des grandes lois qui a mis en avant les soins palliatifs, c'est la loi de juin 1999, et dans laquelle les soins palliatifs sont définis comme des soins continus et actifs. Ces deux mots sont très importants. Des soins dans quelque chose qui est bien un prendre soin. Ce qui caractérise déjà les soins palliatifs, c'est qu'on est dans une dimension du prendre soin, effectué par une équipe interdisciplinaire. Nous verrons à travers les exemples, par exemple, de qu'est-ce que c'est une USP, quelle équipe dans une USP, quelle est l'importance d'être plusieurs et plusieurs compétences autour de ces personnes. En institution et à domicile, nous l'éclairons ensuite. Et puis d'emblée, la loi pose les objectifs des soins palliatifs. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans la loi, par exemple, il n'est pas défini des histoires d'âge, des histoires de critères, on verra que c'est important dans les lieux de soins, mais qu'est-ce que dit la loi ? Elle nous dit, ça sert à quoi les soins palliatifs ? Soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité, on en dira un mot, et soutenir l'entourage. Donc les soins, ce n'est pas la tant question de quand est-ce qu'on est en soins palliatifs. Ce sont des soins qui ont d'abord des objectifs centrés sur le confort et la qualité de vie. Alors il faut peut-être juste revenir éclairer un tout petit peu, même si on l'éclaire ensuite dans ce qu'est la pratique, qu'est-ce que veut dire ces espèces de fondamentaux des soins palliatifs ? Soulager la douleur, c'est une nécessité, c'est même une obligation maintenant. La douleur, il faut bien le comprendre, c'est un véritable carcan pour l'individu qui lui empêche non seulement de penser, de s'exprimer et de vivre. On est bien dans une obligation là, morale, réglementaire, éthique, pour tous les soignants. Ça concerne bien tous les soignants. Par contre, soulager la douleur, ça va faire appel à des compétences techniques, des compétences aussi dans la relation notamment, et c'est notamment quelque chose qui s'apprend mieux maintenant qu'auparavant, mais qui reste encore, dont l'apprentissage reste encore à développer. Quand on parle de la douleur, on s'aperçoit, même quand on discute avec les gens, qu'on a fait de gros progrès. Quand on a commencé, il y a 20 ans, les prescripteurs de morphine n'étaient pas légion. Maintenant, heureusement, on prescrit de la morphine, notamment les morphiniques, c'est très important, beaucoup plus librement. Il y a de gros progrès, il reste encore des résistances. Il reste encore des résistances à s'ouvrir, parce que les médecins n'ont pas été très formés, malgré tout, encore à cette dimension de la douleur. Et je ne parle pas de la dimension de la souffrance, je parle de la dimension de la douleur. Et il y a encore des résistances, il faut en tenir compte. Et puis n'oublions pas, soulager la douleur en soins palliatifs, ça veut dire aussi soulager les autres inconforts. Il y a plein d'autres situations où on peut être en situation d'inconfort, qui ne sont pas uniquement de la douleur, hein, qui sont plein de problèmes de respiration, de problèmes d'angoisse. Soulager la douleur, c'est vrai que c'est un élément phare, mais ce n'est pas que ça, ce ne sont pas que ça les soins palliatifs. Et là, on va commencer à rentrer dans quelque chose qui est déjà encore plus compliqué. Apaiser la souffrance. Il faut d'abord la reconnaître, cette souffrance. Et on ne nous a pas beaucoup appris à la faculté. On l'apprend un petit peu mieux dans les IFSI, les instituts de formation pour les soins infirmiers, à la souffrance que peut représenter la confrontation à la maladie grave, la confrontation à la mort possible. Nous sommes bien, dans les soins palliatifs et l'accompagnement, dans une dimension d'essai, d'approche de la globalité de ce que vit l'autre. On n'est pas dans un saucissonnage de la personne, on est bien dans un essai, on essaye parce qu'on est assez humble en soins palliatifs, de se mettre à l'écoute de toutes les dimensions de difficulté de l'autre. Apaiser la souffrance, amener un peu de douceur, comme disait un des collègues de notre région, oui, plutôt ça que vouloir supprimer la souffrance, parce que on est parfois face aussi à des limites, il faut le reconnaître. Il y a des situations de souffrance, je parle bien de souffrance, hein. La souffrance c'est pas avoir mal, la souffrance c'est être mal. Il y a des dimensions de la souffrance, notamment des questionnements autour du sens, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ma fille est malade, pourquoi ma fille va mourir alors que moi c'est moi qui devrais mourir. Il y a des dimensions du sens, de la souffrance. On peut essayer et on essaye d'être auprès de l'autre. On a du fois du mal à diminuer totalement ou à faire supprimer cette souffrance. C'est important parce qu'il y a un discours qui se développe aussi dans le champ sociétal qui serait zéro souffrance. Reconnaissons qu'on essaye, mais que c'est peut-être pas si simple. La souffrance, c'est quelque chose dans l'expérience humaine malgré tout. Et puis apaiser nos souffrances, apaiser les souffrances, ça veut dire être attentif à ses limites. Et là, je pense à toute l'importance qu'il y a quand on est auprès de quelqu'un atteint d'une maladie grave ou en fin de vie, à être attentif aussi à soi-même, on le sait bien, se mettre à disponibilité de l'autre, ça veut dire aussi qu'on garde en soi des potentiels et des ressources. Globalement, en soins palliatifs, on est attentif à la vulnérabilité, on est attentif à la fragilité, à des mots qui ne résonnent peut-être pas beaucoup dans notre monde, qui ne résonnent peut-être pas beaucoup dans notre approche médicale, mais c'est ça notre attention. Juste un mot sur sauvegarder la dignité. Alors la dignité, moi, ne me demandez pas d'en parler, je ne sais pas ce que c'est. C'est un concept philosophique, les philosophes en parlent remarquablement bien, c'est à chaque fois éclairant. Moi, je trouve qu'en pratique, ce qu'on connaît plutôt, c'est des gens qui se vivent en situation d'être indignes, des situations d'indignité. Oui, ça, il y en a, on en rencontre. C'est-à-dire, je suis un poids pour ma famille, je ne suis plus capable, je ne veux plus voir mes petits-enfants parce que je ne supporte pas qu'ils puissent me voir comme ça. Ça, c'est des situations d'indignité, oui. Et là, quels sont nos repères, nous, les acteurs du soin ou les acteurs du soin palliatif ? Eh bien, c'est d'essayer déjà de redonner sa place à la personne. Comment sa place est souvent complètement attaquée par la maladie. C'est de considérer, comme le disait Madame Simon, véritablement comme le fait que la personne est vivante jusqu'au bout, avec ses désirs, ses ambiguïtés, ses coups de gueule et tout ça, mais vivante. Et peut-être une manière aussi de se mettre à l'écoute de cette dimension de dignité de l'autre, c'est de pouvoir lui permettre de réintégrer, reparler de son histoire, tenir compte de sa temporalité, tenir compte de ses désirs. Moi, je crois beaucoup à essayer d'aller rechercher ce qui fait les puissances de vie en chacun. Elles sont des fois totalement enfouies. C'est bien ça, sauvegarder la dignité. Et puis c'est aussi, parce que nous sommes dans le champ des soins palliatifs et de l'accompagnement, ne pas éluder la question de la mort possible. Sauf que là, on est souvent dans une dimension d'accueil des choses. On n'a pas obligatoirement de vérité, nous, à délivrer sur la mort. Mais nous, soignants en soins palliatifs, bénévoles d'accompagnement, c'est pouvoir être dans un accueil des paroles autour de la mort. Soutenir les proches, c'est une autre dimension très importante des soins palliatifs. C'est dur, c'est ce que disent toutes les familles. C'est dur d'être auprès de quelqu'un qui est malade. C'est dur d'être auprès de quelqu'un qui est en fin de vie. C'est dur, c'est lourd. On fait plein de tâches, on se transforme en mère de sa fille, alors que s'il s'agit de sa maman, parce qu'il faut s'en occupe, on n'a pas obligatoirement beaucoup d'aide. On verra qu'il y a des éléments qui commencent enfin à bouger autour de ça. Il y a un vrai enjeu de société autour du soutien des familles. Il y a aussi toute la place des bénévoles. Je dirais que ça commence à bouger. Il y a du chemin à faire. Voilà, c'était juste pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi parle-t-on quand on parle de soins palliatifs. Je ne vais pas parler de pour qui c'est, les soins palliatifs. J'allais dire c'est pour tous, c'est-à-dire pour tout âge. Dès qu'on a une maladie grave, dès qu'il y a une menace potentielle sur la vie, les soins palliatifs, ce qui est sûr, c'est que ça ne concerne pas que les gens en fin de vie. Alors juste deux, trois éclairages, mais ça sera beaucoup mieux illustré par le docteur Montaz. Voilà, les soins palliatifs en France, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui existe ? Oh ben, trois diapositives pour replacer un peu les choses. D'abord, il y a un dispositif national de soins palliatifs, c'est-à-dire il y a des structures spécialisées. On va les revoir. Les unités de soins palliatifs, Madame Boisseau vous parlera tout à l'heure de l'ouverture de l'unité de soins palliatifs à Poitiers, qui sont des structures d'hospitalisation prenant en charge les situations les plus complexes, on y reviendra. Les équipes mobiles de soins palliatifs, qui sont des équipes pluridisciplinaires qui viennent apporter conseils, appui, compétences, soutien autour des situations difficiles dans les services, dans les maisons de retraite pour les équipes qui sortent, parfois même à domicile. Moi, je fais partie d'une médecin responsable d'une équipe de soins palliatifs mobiles qui va à domicile. Les lits identifiés soins palliatifs, qui est un élément assez complexe, qui est en fait des ressources mises en avant dans certains services autour des patients en soins, requérant de soins palliatifs ou en situation de fin de vie. Et puis, à domicile, alors bien sûr, les libéraux, les structures de soins, les infirmières qui interviennent, et en structures spécialisées, les réseaux, mais là on vous parlera aussi tout à l'heure, par exemple, existe-t-il des réseaux de soins palliatifs en Poitou-Charentes, lesquels, qu'est-ce qu'ils font ? Le docteur Montaz vous en parlera. Et nous n'oublierons pas aussi, parce qu'ils font partie du dispositif, les bénévoles d'accompagnement. Alors globalement, ça c'est une espèce de diapositive pour vous montrer un peu ce que la place de chacun dans une dimension assez générale. Il faudrait dire en bas, là le bleu c'est les soins palliatifs pour tous et partout. C'est ce qu'on appelle la démarche palliative. C'est comment mettre en œuvre les soins palliatifs dans les EHPAD, à domicile, dans les services, en HAD. Voilà, comment mettre en œuvre ça ? On a un certain nombre d'éléments qui nous aident. Ça s'appuie toujours sur de la formation, identifier des gens qui sont référents, faire du lien avec les autres équipes ressources. On pourra y revenir. En haut à gauche, deux éléments maillons très importants, les réseaux et les équipes mobiles. Ceux-là, ils viennent en appui, en soutien, vous l'avez vu, autour des structures. Et puis, dans les structures plus spécialisées, les lits identifiés, on y reviendra, et les unités de soins palliatifs, qui sont le maillon qui accueille les personnes relevant de situations les plus complexes. Donc, il faut bien se rendre compte que les soins palliatifs, en termes de structure, là je vous présente des structures, sont déjà des palettes de structures ayant des missions, des objectifs, des lieux d'intervention différents. C'est pour ça que c'est assez important à connaître. Mais la meilleure manière, ce sera de l'illustrer tout à l'heure par ce qui se passe dans votre région, dans votre département. Madame Simon m'avait demandé 10 ans, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il est sorti tout un gros rapport en fin d'année 2008. le rapport Athémis, qui est bourré de cartes, de chiffres intéressants. Il est super, on le trouve sur le site de la SFAP, Société Française d'Accompagnement de Soins Palliatifs, ou même sur le ministère. Alors, je vous en ai sorti deux cartes. Enfin, il y en aura deux autres après. La carte du haut, elle montre... Alors, on parle là... J'ai pris l'exemple des équipes mobiles. Hein. Les équipes mobiles, donc les équipes qui sont souvent en intra-établissement, parfois en inter-établissement, et qui viennent apporter conseil et soutien. En haut, c'est en 98. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a du blanc. Il y a du gros blanc partout. Il y a beaucoup de blanc. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui n'ont même pas une équipe mobile. Et puis, quand on voit, c'est un petit peu loin, quand on regarde les chiffres, les numéros, c'est le nombre d'équipes mobiles par département. Qu'est-ce qu'on voit? Il y en a une. Deux, bon, mis à part Paris, c'est-à-dire un très petit nombre. 98. 2007, c'est les derniers chiffres qu'on ait, 2007. C'est la carte du bas. Bah, déjà, l'évolution en 10 ans saute aux yeux. Il y a quasiment plus de blancs. Quasiment. Ceux qui sont en blanc sont un peu des erreurs, là. Le Doubs et tout ça. Il y a quasiment plus de blancs. Il y a plusieurs équipes par département, c'est-à-dire il y a plusieurs établissements de chaque département, en règle générale, qui ont des équipes mobiles. Mais pareil, on verra la déclinaison en région. Donc, il y a incontestablement eu un effort, il faut le reconnaître, à travers plusieurs plans ou programmes pour le développement des soins palliatifs. Ces deux cartes parlent d'elles-mêmes. Deux autres cartes. Maintenant, pour illustrer autre chose... Là, c'est une carte de France qui reprend en haut, on est en année 2007, les chiffres indiquent le nombre de places des unités de soins palliatifs ramenées aux régions. En bas, ce sont les nombres de places d'unités de soins palliatifs ramenées au département. Qu'est-ce qu'on peut dire? Carte du haut, 2007, hein, toutes les deux cartes. C'est-à-dire ces derniers chiffres qu'on a. 2007, bah, quand on regarde de région, bah, on s'aperçoit, tiens, il y a des trous. Tiens, Poitou-Charentes. Un petit blanc au niveau Poitou-Charentes. À cette époque-là, en Poitou-Charentes, auparavant, il y avait des structures qui étaient reconnues comme unités de soins palliatifs, et après qui n'ont plus été reconnues comme unités de soins palliatifs, et pendant longtemps, il n'y a plus d'unités de soins palliatifs, deux ans au moins, il n'y a plus d'unités de soins palliatifs en Poitou-Charentes. Même chose en Haute-Normandie. Et puis on voit qu'il y a des régions qui sont plus richement dotées. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que d'une région à une autre, alors pour cette structure particulière que sont les unités de soins palliatifs, mais si je vous avais mis la carte des réseaux, ça aurait été à peu près pareil, il y a déjà une relative inégalité dans les structures. Une relative inégalité dans les structures, ça veut dire quoi? Une relative inégalité dans l'accès. Et puis quand vous déclinez ça, carte du bas, 2007, tout ce qu'il y a de plus officiel, sorti d'un site gouv.fr, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous ramenez les unités de soins palliatifs au département, il y a beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de blancs, c'est-à-dire que l'inégalité territoriale, elle est encore plus forte au niveau des départements. Donc qu'est-ce qu'on peut dire actuellement sur le dispositif? Il y a eu de vrais efforts, oui, avec des lois, des circulaires, un cadre réglementaire qui a été là, heureusement, oui, c'est bien. On partait tellement loin, de toute manière, que ce n'était pas difficile de faire mieux. Il y a eu un vrai développement du dispositif, et puis il y a eu un vrai engagement des acteurs, qu'ils soient des acteurs professionnels, qu'ils soient des acteurs bénévoles, et ça on l'entend aussi, la plus-value à travers ce que ramènent les familles, c'est quand même mieux, c'est déjà mieux d'être accompagné, et puis c'est quand même mieux maintenant qu'avant. Maintenant, il faut dire la vérité, moi je ne suis pas pour... Il reste encore beaucoup de choses à faire. On a vu qu'il y a une grande inégalité territoriale, vous étiez parmi les régions, ou par exemple, en termes d'unités de soins palliatifs, depuis que Châteauneuf-sur-Charente et l'autre partenaire avaient été entre guillemets rétrogradés, il n'y avait plus d'unités de soins palliatifs. Bon. Heureusement, il y en a une nouvelle. Donc, nous sommes encore dans un développement à poursuivre, et ça, c'est quelque chose que je dis aussi pour les élus. C'est important de savoir qu'on n'est pas arrivé au bout de nos efforts. Et puis, il faut dire aussi, il y a encore certaines populations qui ne sont pas assez touchées, qui n'ont pas encore suffisamment accès aux soins palliatifs. Je pense notamment, il y a encore des progrès à faire autour du domicile. C'est sûr, malgré l'essor des réseaux. Il y a encore des progrès à faire autour des personnes âgées, certaines EHPAD. Il y a même des populations qui sont des exclus du soin. Je pense aux détenus. Il y a à bouger encore. Ah, mais je vais tenir mon temps, c'est nickel. Alors, Madame Assimon, vous a cité quand même... Bon, face à ça, le constat d'auparavant, là, c'est un constat de 2007. C'est-à-dire, il y a eu des avancées, il reste des choses à faire. Au vu de ce constat, il y a eu un engagement fort, posé, c'est le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, avec des objectifs assez ambitieux. C'est un programme qui est identifié comme un programme présidentiel, donc avec un fort impact, un fort portage politique, des moyens qui étaient annoncés à hauteur de 230 millions d'euros. Voilà, moyens annoncés. Après, il faut aller les chercher, les 230 millions d'euros, dans les différents PLFSS, le programme de projet de financement de la sécurité sociale. Bon, c'est entre l'annonce et... Il y a de la marge. Et globalement, on ne va pas rentrer dans le détail du plan, mais ce plan, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherchait à avoir une approche relativement globale au travers 18 mesures sur les soins palliatifs et l'accompagnement en France. Trois axes. Premier axe, on l'a vu, développer l'offre de soins. Nous sommes encore dans une offre de soins insuffisante en termes de soins palliatifs et d'accompagnement. Donc il faut continuer à développer ça. Continuer à développer les équipes mobiles, continuer à développer les unités de soins palliatifs, continuer à développer les réseaux, c'est pas si simple en fait. Deuxièmement, renforcer la formation en soins palliatifs, ça c'est peut-être l'axe le plus important, c'est pas celui qui sera le plus coûteux, mais c'est probablement un de ceux qui sera le plus difficile à mettre en œuvre. On est en train de travailler actuellement au niveau du ministère avec l'ASFAP et le président du comité de suivi, le docteur Régis Aubry, pour essayer de développer la formation aux soins palliatifs, à la vulnérabilité, aux enjeux éthiques dans la formation initiale des médecins. Eh bien, je peux vous dire... J'espère que, enfin, il y a peut-être des collègues de l'université qui sont présents. L'université, elle n'est pas encore très ouverte à ça. Hein. Il faut aller taper dans les portes pour que ça bouge. Et puis, troisième axe, on l'a vu comme c'est important, l'accompagnement offert aux proches. Personnellement, je trouve que c'est un axe qui ne s'est pas beaucoup mis en œuvre. On peut en discuter. À titre d'exemple, vous savez par exemple qu'il existe un congé d'accompagnement, congé de solidarité familiale, qui était prévu depuis très longtemps, 99 d'ailleurs, mais pas indemnisé, pas financé. Suite à la mission d'évaluation de la loi de Jean Leonetti, la proposition avait été faite qu'il y ait une indemnisation de ce congé. C'est passé devant l'Assemblée nationale, ça a été voté, quasiment à l'unanimité. Ça s'est fait en mars, avril, ça, on en a entendu parler à ce moment-là, si vous avez écouté un petit peu les médias. Voilà, seulement, vous connaissez, il faut que ça passe ensuite au Sénat, c'est la navette. Et ben voilà, par exemple, c'est pas encore passé au Sénat, ça n'a pas été voté au Sénat. Les sénateurs nous ont dit que ça devrait être très bientôt. Moralité, il n'y a toujours pas d'indemnisation du congé d'accompagnement. Donc, il faut aussi toujours aller être dans une dimension dynamique et de recherche. Deuxième point, référence. Alors, vous avez sûrement eu déjà des informations, vous en avez sur vos sièges, comme le disait Madame Assimon. La loi dite Leonetti, qui est la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Ça, c'est un texte qui nous concerne tous. C'est un texte fondamental. Ça a fait beaucoup bouger les lignes. Je ne reviendrai pas sur le contexte de l'élaboration de la loi, on pourra le reprendre, mais c'est assez long. C'est très important d'avoir la contextualisation de cette loi, toute l'affaire Imbert, toute la demande sociétale qu'il y avait derrière. Cette loi, son objectif, ça a été quoi? De dire, on va renforcer le droit des personnes. Renforcer le droit des personnes. À travers, un... refuser ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire ce qui est de trop, ce qui est inutile, ce qui est disproportionné, ce qui a pour seul objectif de maintenir la vie, ça, non, ça n'a plus sens. Ça n'a plus sens de s'acharner, de faire trop. C'est extrêmement important pour nous, parce que c'est un levier énorme. Ce n'est pas une fermeture de dire non à l'acharnement thérapeutique. C'est une ouverture à dire, à penser, pour chaque situation, qu'est-ce qui est adapté ? Qu'est-ce qui est le bien faire pour ce patient dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui est le trop ? Et ça, quand on commence à penser ça, on commence à être dans élaborer un soin juste. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça a été quelque chose, pour nous en tout cas, qui nous semble vraiment fondamental. Deuxième élément de la loi, on va passer assez vite, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais on pourra échanger après. La primauté du soulagement de la douleur. La loi, elle dit, si pour soulager la douleur, vous devez mettre en place des produits qui auraient le risque ou qui ont le risque de raccourcir la vie, ce qui prime, c'est de soulager la douleur. Ce n'est pas la vie à tout prix, c'est d'abord le soulagement de la douleur. Ça, c'est aussi extrêmement important. Enfin, le plus central, c'est ça remet en avant la parole du patient, ça remet ses souhaits, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me paraît adapté, qu'est-ce qui me paraît de trop, est-ce que j'ai envie d'avoir de la réanimation si je suis inconscient alors que j'ai une maladie neurodégénérative, est-ce que j'ai voilà, des choses aussi importantes que ça. Et bien maintenant la loi, pour faire court, elle dit, c'est votre parole qui prime. C'est votre parole qui prime. Alors elle a des dispositions, des dispositifs différents, si vous êtes en capacité de vous exprimer ou si vous êtes inconscient. Elle a des dispositions un petit peu différentes, si vous êtes en fin de vie ou pas. Mais globalement, nous avons tous à dire quelque chose autour des grandes décisions qui nous concerneraient si nous sommes atteints d'une maladie grave ou si nous sommes en fin de vie. Je vous rappelle que ça peut passer par deux moyens. Et je vous engage à réfléchir à ça, qui sont la personne de confiance, c'est-à-dire la personne désignée pour être notre porte-parole si nous ne pouvons pas être là pour nous exprimer, et ce qu'on appelle les directives anticipées, dans lesquelles j'exprime les souhaits, ce que je souhaite, ou des fois ce que je ne souhaite pas autour d'une situation de fin de vie. Cette loi, on est obligé de passer très vite, c'est un repère absolument capital. Je suis quasi fini. Juste deux interrogations maintenant. Est-ce qu'on peut, quand on parle de soins palliatifs, uniquement se limiter, par exemple, au dispositif ? Non, parce que les soins palliatifs et l'accompagnement nous mettent d'emblée dans une dimension plus large, une vraie dimension de société. Ce que nous posons aussi comme point de repère, c'est d'abord la place de la personne. La place du malade, l'importance de considérer la personne comme un sujet, l'importance de considérer la personne dans une approche qui soit respectueuse de la globalité de ce qu'il vit, de ne pas le saucissonner, de ne pas le considérer comme une maladie ou une juxtaposition d'organes. Et là, nous venons toujours percuter un certain nombre d'habitudes, notamment dans le champ médical. La deuxième question que vient amener les soins palliatifs et l'accompagnement, c'est bien entendu la question de la mort et la question du mourir, qui est une question qui est souvent largement occultée. Alors au quotidien, c'est vrai, on n'y pense pas, hein, nous le premier, mais qui est globalement une question qui est largement occultée dans notre société. Et c'est dommage, parce que malgré tout, la mort, et peut-être d'abord, je dirais presque la maladie grave, c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une épreuve et c'est important de pouvoir aussi accueillir des mots autour de ça. Troisième chose, et là on n'est pas bling-bling, hein, c'est la complexité. On n'est pas dans des discours simplistes autour de la fin de vie, de l'accompagnement. On n'est pas dans dire c'est ça qu'il faut faire, c'est bien, il n'y a qu'une manière. Non, parce qu'on est face chaque fois à un être unique, dans une histoire unique, et souvent... autour d'une situation qui est compliquée, imbriquée, avec des souhaits, des ambivalences, des désirs, voire même des désirs de mourir et des désirs de vivre en même temps. On est au cœur de la complexité de la vie. Ça, des fois, c'est tellement plus facile d'avoir des discours simplistes, bien binaires, vous êtes pour ou contre l'euthanasie, machin, non, pas ça. On est au cœur de la complexité, on est au cœur de la souffrance, on a vu. On est au cœur de la vulnérabilité, c'est-à-dire de la manière dont on peut être en fragilité dans notre monde et comment... je ne sais pas vous, hein, moi je trouve qu'on a une société à la fragilité, elle a plutôt tendance à hein, le foutre sous le voile que d'aller auprès de cette fragilité et d'y accorder au moins une attention. Et puis, voilà, l'accompagnement, les bénévoles vont en parler, c'est indissociablement lié aux soins, l'accompagnement, hein, on ne dissocie pas ça des soins. Puis il faut reconnaître, hein, parce que, excusez-nous, on est à la fois... je dirais convaincu, mais on est aussi, de par ce qu'on vit tous les jours, on est aussi à reconnaître nos limites, nos manques, le fait qu'on n'a pas réponse à tout en soins palliatifs et dans la dimension d'accompagnement. Le doute, des fois, qu'est-ce qui est le plus adapté à cette situation? Quelle est la moins mauvaise des décisions? Ben, des fois, c'est d'abord la question qui est importante, c'est pas la réponse. Donc on a des choses qui sont pas très porteuses, apparemment, mais qui pour nous sont vraiment au centre, que ce soit les bénévoles ou les professionnels, de notre travail. Pour terminer, dire que, et sur une note d'espoir, parce qu'en soins palliatifs, on est plutôt toujours du côté de la vie, les choses bougent, et les choses bougent vite, notamment en termes de représentation sociétale. Il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de soins palliatifs, même autour de vous, et même ça continue encore, vous voyez les mines qui s'allongent, oula, ça, hein, on brouille un peu l'ambiance, et puis dans la majeure partie des personnes, soins palliatifs est égal, mort dans les jours ou heures qui viennent, ça sent le sapin, croque-mort, cimetière. Ça commence à bouger, ça. Et on est très content de l'avoir montré dans une étude toute récente, un sondage en juin qu'on a fait grâce à la Fondation de France et à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Qu'est-ce qui nous est dit dans des périodes où on nous parle sans arrêt, 90% des gens qui sont pour l'euthanasie, machin, truc là. Quand on vient poser des questions autour de la fin de la vie, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Eh bien, 9 Français sur 10 nous disent que les soins palliatifs, c'est une réponse nécessaire à la souffrance. Donc ils ont bien identifié l'importance de la mise en œuvre des soins palliatifs. Ils nous disent quoi aussi? Que ça permet de vivre le plus sereinement possible sa fin de vie, 88%, et que ça permet aux personnes gravement malades ou en fin de vie de mourir dans la dignité. Donc globalement, les soins palliatifs maintenant sont un message, et heureusement, qui commence à passer plus auprès des Français. Et peut-être que ça passe plus auprès des médias. Il y a peut-être des journalistes dans la salle. Non, pas de... Et ça, c'est bien, parce que les médias ont été pendant très longtemps dans un discours extrêmement binaire. Mais, et on terminera peut-être sur ce mais ils sont... les sondages d'opinion, c'est toujours intéressant, parce que c'est comme les votes des Français. Il y a toujours un truc, une espèce de vérité là-dedans. Il y en a 2 sur 3 qui se disent « on n'est pas suffisamment informés ». Il y a des gens qui nous disent, mais je ne sais pas comment avoir accès aux soins palliatifs, je ne sais pas s'il y a une structure auprès de chez moi, je ne sais pas si c'est des soins remboursés, voilà, je ne sais même pas si j'y aurais droit. Il y en a qui nous ont dit, mais il faudrait avoir sûrement une très bonne mutuelle pour avoir des soins comme ça. Je vous rappelle, les soins palliatifs, hein, c'est sécurité sociale, 100% remboursement. Et puis, près d'un Français sur 2 nous disent, mais moi je pense que les personnes n'ont pas accès. Les personnes gravement malades, ils n'ont pas accès. Ils posent la question fondamentale, qui est probablement l'enjeu pour demain, qui est l'accès aux soins palliatifs. Comme vous l'a rappelé Madame Assimon, la loi, elle a mis des objectifs hauts, en disant toute personne dont l'État le requiert a le droit de bénéficier des soins palliatifs. Et bien, ce pour le quoi il faut continuer à se battre, tous, professionnels, bénévoles, et je dirais même vous, tout à chacun, parce que c'est un devoir de chacun, c'est de développer l'accès aux soins palliatifs. Ça va passer aussi par d'autres enjeux, l'information. Merci d'avoir fait cette soirée. Une autre culture, si on n'est même plus uniquement dans la formation, on essaie de mettre une autre culture au sein de la médecine, et puis peut-être aussi un autre discours autour de la fin de la vie. Et là, on en sent les prémices. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que depuis... je ne sais pas comment réagissent, par exemple, votre presse locale. J'ai l'impression qu'on est sorti un peu des positionnements binaires, partisans, qui étaient vraiment inintéressants, parce que, alors là, à 100 000 km des préoccupations des patients et de leurs familles,
pour commencer à se poser des questions autour de la situation de fin de vie. Pour terminer, aller chercher des informations, puisque c'est un droit aussi, autour du répertoire national des structures, c'est où est-ce qu'il existe des structures de soins palliatifs près de chez moi. Et puis, je vous ai mis trois sites importants, la SFAP, le Centre national de ressources et la ligne Accompagner la fin de vie. Là aussi, vous trouverez des éléments. Il nous faut relever les défis. Les défis, c'est que, au XXIe siècle, cette dimension du prendre soin, qui est à la fois des compétences, mais aussi une dimension de mise à disposition de l'autre, une dimension d'humanité à l'autre, il doit continuer à se développer partout. Et on verra à travers l'échange que même si c'est pas encore, on est loin d'être arrivé, on a quand même progressé. Mais continuons, parce que derrière, il y a un vrai message de solidarité auprès des plus gravement malades et des plus vulnérables. Je vous remercie. On va, après avoir fait ce survol un petit peu général, et avant les questions, on va peut-être, à travers l'expérience du docteur Montage, venir un peu illustrer ce que sont un petit peu ça, qu'est-ce qui se passe en Poitou-Charentes, en Vienne. Ah oui, je donne le siège.
Bien, vous imaginez que vous avez fait un très très bon repas, copieux, super bon et tout. Puis il y a quelqu'un qui arrive en disant « Oh, vous allez bien en prendre un petit peu, je vous ai fait en plus un petit dessert en plus. » « Ah ouais, bah, j'en ai un peu marre, mais enfin bon. » Voilà, ben moi je vais vous donner ce petit plus. Donc vous avez, là, vous avez fait un super repas. Puis j'ai la délicate mission de, voilà, d'en mettre une petite couche de plus. Et en plus avec des chiffres. Donc tenez bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il existe en Poitou-Charentes dans nos quatre départements? J'avais fait un petit rappel, on s'était entendu avec Godefroy Hirsch pour donc reparler des différents l'offre de soins qui existe en France. Donc c'est l'accompagnement, j'allais dire lambda, l'accompagnement palliatif lambda dans tous les services hospitaliers, sans lit identifié. C'est ce que tout soignant ici dans cette salle espère faire dans tous les services. Et puis il y a les lits identifiés en soins palliatifs, où il y a, c'est un service de proximité, avec ce sont des lits qui sont dans les unités effectivement curatives, qui permettent la continuité des soins. On ne coupe pas les gens entre ça y est, c'est terminé, c'est plus curatif, c'est palliatif. Il y a un chevauchement dans cette prise en charge, avec bien sûr des appels à des équipes mobiles, à des référents de soins palliatifs. Donc il y a une attention, un regard plus particulier dans ces lits identifiés qui sont dispatchés dans les structures hospitalières. Deuxième autre niveau, ce sont les équipes mobiles de soins palliatifs ou qui, la plupart du temps, qui sont intra-hospitalières ou inter-hospitalières, où on se déplace dans d'autres établissements du département. Par exemple, Poitiers, l'équipe mobile se déplace sur Lusignan, Loudun, Montmorillon, pour parler de certains dossiers difficiles que nos confrères peuvent rencontrer. Et enfin, toujours dans le cadre, vous avez vu, de la transversalité, c'est-à-dire comment cette discipline, comment cette attention, cet accompagnement peut-elle diffuser, eh bien, en transversalité grâce au réseau. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a des différents types de réseaux et l'hospitalisation à domicile qui travaille avec les équipes mobiles pour cette attention de prise en charge. Et enfin, les unités de soins palliatifs que Catherine Boisseau va vous montrer dans un petit moment. En Poitou-Charentes, très rapidement, et là, il faut s'accrocher un petit peu, donc il n'y a que deux réseaux sur nos quatre départements. Donc, un réseau à l'ISPAD, c'est-à-dire, c'est quoi un réseau? Ce sont des groupes de professionnels, médecins, infirmières, psychologues, etc., qui vont au domicile des gens et qui vont faire le lien entre le domicile et les structures hospitalières, entre le domicile et les EHPAD, voilà, qui vont faire le lien avec le médecin traitant, l'infirmière libérale, etc. Ils vont coordonner tout ça. Ils vont essayer d'être dans le conseil, dans le soutien. Deux réseaux en Poitou-Charentes, à l'ISPAD, dans les Deux-Sèvres, et le réseau donc RVH17. Ces deux réseaux eux-mêmes ont des différences. À l'ISPAD, il y a effectivement médecins, infirmières, psychologues qui peuvent aller au domicile, qui vont rencontrer le médecin traitant, qui vont faire des réunions auprès du patient, de la famille, etc. Le réseau, le médecin ne se déplace pas, ce sont des infirmières qui vont faire le point et qui vont en rendre compte à un médecin coordinateur qui va rentrer en contact avec le médecin libéral. Vous voyez, il y a des façons différentes de travailler, il n'y a pas une bonne façon, une mauvaise façon, chacun essaye de progresser. Deux réseaux sur quatre départements. Quand vous imaginez que le réseau, c'est souvent un médecin, deux infirmières, un demi psychologue, voilà, c'est un début. Voilà, tout doucement, les choses sont en train d'évoluer. 9 équipes mobiles de soins palliatifs, donc dispatchées, on verra un petit peu plus en détail, donc dans les principaux établissements hospitaliers. Et puis, les USP, eh bien, le regret d'avoir perdu 2 USP, ça, c'est la magie des comptes, de l'économie, je ne sais pas, ce sont des choses qui me dépassent. Et puis, l'ouverture, effectivement, à Poitiers d'une unité de soins palliatifs dans quelques jours. Les lits identifiés, il en existe 143 dispatchés dans différents établissements. Beaucoup de professionnels relais formés aux soins palliatifs dans beaucoup d'hôpitaux locaux et puis de nombreuses associations. Et une association avec laquelle nous travaillons et nous allons encore plus coopérer avec l'ouverture de l'unité de soins palliatifs, donc JALMAV. Si on prend le département de la Vienne, on peut s'appuyer sur cette ouverture de l'unité de soins palliatifs à Poitiers et 2 équipes mobiles, celle de Châtellerault et celle de Poitiers. Celle de Poitiers est intra-hospitalière. Nous sommes donc appelés dans les différents services de l'hôpital pour soutenir, conseiller, partager, éclairer une situation. Et puis celle de Châtellerault, donc, qui, avec le docteur Moreau, qui va à domicile puisqu'il y a un lien, une coordination entre cette unité et l'équipe de l'hospitalisation à domicile. Donc ce sont les mêmes équipes qui peuvent aller au domicile de ces gens, ce qui n'est pas facile sur Poitiers, sauf avec l'HAD, où là aussi nous pouvons nous déplacer quelquefois à domicile. Et puis les lits identifiés, vous avez les chiffres, vous voyez, ils sont répartis au CHU, il y en a à la Polyclinique, il y en a à la Clinique Saint-Charles, il y en a à Châtellerault, Loudun, Montmorillon. Et cet après-midi, en essayant de joindre nos instances, a priori, Lusignan aurait obtenu également 2 lits. Si on s'éloigne un petit peu, mais c'est pour vous montrer comment se fait cette couverture, tant bien que mal, mais avec progression quand même, sur la Charente-Maritime, une équipe mobile de soins palliatifs intra-hospitalière qui ne se déplace qu'au sein de l'hôpital de Rochefort, et puis 2 équipes également mobiles, mais qui se déplacent dans d'autres établissements ou au domicile, comme à Sainte et à La Rochelle. Le réseau RVH qui est situé à La Rochelle, je ne vous fais pas de dessin pour la personne qui est au domicile à Boscamenant, même si elle a elle a la chance qu'une équipe de Sainte vienne, mais en tout cas le réseau est inexistant. Des lits identifiés répartis dans les différents centres hospitaliers de ce département. Et puis en Charente, eh bien, la Charente avait une unité de soins palliatifs à Châteauneuf qui s'est transformée actuellement en lit identifié. Et 3 équipes mobiles de soins palliatifs, dont 2 qui sont intra-hospitalières, mais dont une qui n'a plus de médecin depuis au moins 2 ans. 38 lits identifiés, répartis là encore dans les hôpitaux locaux ou dans les centres hospitaliers. Je vais assez vite. Vous avez cette carte des Deux-Sèvres, avec là aussi une unité qui fonctionnait très bien comme à Châteauneuf, qui était celle de Parthenay, qui a fermé ses portes et qui a été transformée en lit identifié, donc avec des moyens moins importants. deux équipes mobiles de soins palliatifs intra-hospitalières, l'une à Niort et l'autre à Parthenay, et enfin un réseau qui fonctionne très bien avec un médecin, infirmière, c'est ce que je vous disais il y a un instant, qui vont au domicile proche des gens. Et donc j'avoue que ce sont des gens que nous envions d'avoir ce réseau qui va à domicile, qui coordonne les soins entre le médecin référent, le médecin libéral, les infirmières libérales, les acteurs du curatif, du palliatif, etc. C'est comment coordonner, parce que quand même, vous imaginez, mais beaucoup de gens ici le savent, c'est que pour s'y repérer, il faut vraiment beaucoup de courage. Hein. Qui fait quoi, quel moment, etc. Et c'est vrai que d'avoir la chance de bénéficier de personnes qui vous expliquent un petit peu dans quel sens on va, eh bien ça, c'est quand même primordial. Alors, entre parenthèses, ça vaut pour les soins palliatifs, mais alors ça vaut dans beaucoup de domaines. C'est quand même bien quand on nous explique les choses. Mais les gens en soins palliatifs, vous imaginez tout ce qui leur tombe dessus, ils ont vraiment besoin, effectivement, qu'on s'arrête un tant soit peu pour expliquer les choses. Je suis en train de dépasser mon temps, je suppose. Alors, le projet des soins palliatifs, c'est la constitution de l'unité, donc c'est fait. Le devenir des unités de soins palliatifs, c'est est-ce qu'une unité de 10 lits en Poitou-Charentes peut supporter la complexité de certains cas dans toute la région? On ne va peut-être pas faire un sondage. À peine, oui, d'accord. Donc, il faut espérer, et ça viendra forcément, le docteur Hirsch nous l'a dit, que là aussi, hein, dans les années qui vont venir, les choses vont être repensées pour améliorer cette répartition. Homogénéiser les lits identifiés, parce que d'un service à l'autre, même si on a des lits identifiés, la prise en charge, c'est pas une question de volonté des acteurs de santé. La plupart, je veux dire, ils ont envie de bien faire. C'est que s'ils n'ont ni le temps ni les moyens, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Voilà, c'est simple. Et puis, de répondre à un cahier des charges extrêmement précis, avec d'évaluer ce qui est fait dans ces lits. Et enfin, pouvoir, en tout cas pour la Vienne, mais aussi pour la Charente, identifier les freins à la constitution des réseaux. Il y a toute une réflexion actuellement qui est menée sur la Vienne pour la création d'un réseau. On manque un petit peu de bras, là, pour cette réflexion. Donc, bienvenue à tout le monde. Et puis, je fais un peu de pub par la même occasion, pour créer ce réseau, pour justement que la personne qui est la plus éloignée dans notre département et qui a envie d'être chez elle auprès de ses proches, elle puisse avoir ce soin et cette prise en charge. Voilà, je vous remercie. C'était beaucoup plus court, mais ce que je voulais vous dire sur le Poitou-Charentes. On vous propose de digérer et voilà, on est, enfin le docteur Hirsch surtout, prêt à répondre à vos questions qui seront nombreuses, on l'espère. Et puis, en ce qui concerne l'unité de soins palliatifs, on laissera dans un petit moment la parole à Catherine Boisseau pour parler particulièrement de cette unité.
C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles. Ah, merci.
Ma question s'adresse davantage à Monsieur Hirsch. Vous avez évoqué une certaine fermeture de l'université. J'aimerais savoir ce que vous entendez par université. Et concernant l'école d'aide-soignante, où j'ai le grand privilège d'y être, il n'y a pas beaucoup d'ouverture à la formation en sciences humaines. Donc, ma question, comment former en sciences humaines aussi, parce que pour approcher l'homme dans sa globalité, j'ai du mal à voir quand on n'a aucune formation en sciences humaines. Enfin, je m'exprime un peu mal, mais c'est un petit brouillon qui vous prouve que j'ai été formée à l'université également.
Mais vous êtes au cœur du problème, en effet.
Alors, sur l'université, autant pour moi, je pensais, enfin, plusieurs choses. D'abord, je pensais à une partie de l'université qui est la faculté de médecine, au sens général, ou les facultés de médecine, et dans le, qui concerne donc la formation initiale des médecins, même si un certain nombre de formations complémentaires sont... Et où il faut là faire bouger les lignes, notamment pour faire, comme vous le dites, reconnaître que tout ce qui est l'ouverture aux sciences humaines, d'une part, qui ont déjà été un petit peu mieux mis, moi je commence à dater un peu, mais aux sciences humaines, nous, on a, maintenant ils ont ça en P1, en P2. Donc continuons ça, développons ça, vous avez complètement raison. Il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait apprendre à qu'il faudrait un petit peu nous apprendre mieux. C'est, comme je le disais, l'ouverture à la complexité. Comment on fait pour réfléchir, agir, mais réfléchir aussi devant des situations complexes? Parce que maintenant, le champ de la médecine, ce n'est pas englober du savoir, ce n'est pas bouffer du savoir, même si ça reste aussi ça. C'est comment on fait devant les situations qui nous échappent, qui sont très compliquées, où il faut faire des choix. Ça, on ne nous l'apprend pas beaucoup. C'est vrai. Ouais. Et l'autre élément qui est aussi important, et là les lignes sont difficiles à faire bouger, c'est comment on apprend à travailler ensemble avec d'autres professionnels de santé. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, se retrouver avec des infirmières, des aides-soignantes? Ça se fait dans quelques rares endroits pour venir réfléchir ensemble, des infirmières et aides-soignantes en formation. Hein, pour réfléchir ensemble autour de situations complexes, autour d'une situation de fin de vie qui a été, je dirais, accompagnée ou pas accompagnée. Voilà, vous avez raison, il faut globalement, c'est en ce sens-là où je disais l'ouverture de l'université, alors la faculté de médecine, c'est du granit, hein, c'est du bronze, hein, pour ouvrir les portes, faut... Bon, mais sûrement aussi la formation des autres acteurs, vous avez raison, il me semble que déjà les autres acteurs, aides-soignantes ou acteurs du soin infirmier, sont un peu plus ouverts que nous, les médecins, à cette dimension plus globale du soin, je trouve, globalement. Mais il y a encore des progrès à faire. C'est d'ailleurs un des champs d'action autour du programme. Il y a un réchauffement climatique en Vienne, il fait très très chaud, ça ne nous pousse pas à part à lutter contre le sommeil, mais sinon... Monsieur, oui, juste devant.
Peut-être ce que je voudrais exprimer n'est pas pour bavarder, mais pour mettre quelques points de repère, si vous voulez, tout au moins dans ma tête. Peut-être ça pourrait profiter à d'autres aussi. Qu'est-ce que, dans la réflexion concernant les soins palliatifs, l'accompagnement du mourant, comme on disait autrefois, qu'est-ce qui fait progresser? Moi, je cite déjà Michel de Montaigne. Je cite Elisabeth Kubler-Ross. Voilà des gens qui ont posé le problème d'une manière positive. Car ce que j'entends, en particulier même ce soir, c'est très habituel, c'est on essaye de faire mieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer les défis. Premier défi, défi physique, corporel, somatique, la douleur. Tout le monde d'accord, très vite. Et puis après, au bout de ça, euthanasie. Deuxième question, deuxième défi, la souffrance. On est dans le psychologique. Troisième défi, le défi philosophique. Élise, ça, j'ai cité Montaigne. Et enfin, quatrième défi, le défi de l'espérance. Je me permets de poser ça comme une espèce d'affirmation, question. Parce que, bien sûr, je n'ai pas la réponse. Ou tout au moins, j'ai quelques éléments.
Je ne sais pas si... Oui, moi, si j'ai besoin d'amener réponse à ce que vous mettez, je ferai juste attention à des glissements entre ce qui est le somatique et ensuite vers l'euthanasie, comme s'il y avait une espèce de pente naturelle autour de ça qui ne me semble pas correspondre à la réalité. Sinon, vous ouvriez sous une autre terminologie à ce qu'est la globalité de la vie et la manière dont, en soins palliatifs, dans l'accompagnement, mais aussi... dans d'autres champs, on est attentif aux différentes dimensions de ce que vit l'autre. Hein, vous en avez cité la dimension philosophique, on peut mettre sous ça d'autres paroles, la dimension spirituelle. On est très attentif aussi aux champs, ne l'oublions pas, aux champs que nous sommes aussi des êtres vivants en société, et tout ce qui fait la relation, le champ sociétal, tout ce qui est aussi de l'attention sociale. Hein, on est aussi un être de société. Mais je n'ai pas plus à ajouter à vos paroles.
Moi, je vais, je ne sais pas si ça marche, vous m'entendez là ? Simplement reprendre ce que vous venez de dire. Non, je vais avaler le micro, voilà, c'est mieux. Vous avez utilisé l'expression accompagner des mourants. Et peut-être que là où on en est aujourd'hui, c'est accompagner dans la vie jusqu'au bout. Et pas accompagner des mourants. Je parle en tant que professionnel. Je pense que nous-mêmes, si on a l'image d'accompagner quelqu'un qui est mourant, on est déjà dans la mort. Notre objectif, c'est d'aider la personne, en restant très humble, à être dans la vie jusqu'au bout. Et pour ça, bien sûr qu'on va essayer de maintenir l'espérance, mais l'espérance, son espérance à lui, ce n'est pas la mienne. C'est à la mesure de ce qu'ils ont perdu. C'est voir sa petite fille demain, c'est regarder une rose fleurir par la fenêtre. C'est quel projet, et puis c'est leur redemander toujours qu'est-ce qui vous ferait plaisir, parce que je crois, hein, je dis bien je crois, parce que j'ai pas de réponse toute faite, que l'absence, enfin, le désir de mort ou la grande solitude ou la grande souffrance des patients, c'est quand il n'y a plus ni désir ni plaisir. Combien de fois les soignants s'autorisent-ils à dire à un patient bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Je ne lui demande pas s'il pense qu'il va mourir demain. Voilà. Et, alors, je ne sais pas si c'est une réponse. Hein. Et peut-être que c'est dans ce qu'on s'autorise à créer tous les jours avec le patient, avec sa famille, et puis pouvoir lui dire aussi, quand il me pose une question, oser lui dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pourriez construire, qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble? Voilà, c'est au niveau de la douleur. Alors, la douleur physique, oui, mais faire des massages, poser un bain, on n'est pas dans le même repère de temps, prendre le temps, leur donner du temps, celui qu'on a de nulle part et qu'on n'a plus dans la vie d'aujourd'hui à toute vitesse. Voilà, c'est... Et je pense vraiment que cette expression accompagnée des mourants, je trouve ça épouvantable. On est mourant, tant qu'on est en vie, on n'est pas mort. C'est une palissade, mais...
Ce que je veux dire, accompagner des mourants, c'est un terme historique.
C'est tout à fait, c'est pour ça que vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout à fait.
Absolument.
Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui a changé.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut passer du terme négatif, accompagner un mourant, à accompagner un vivant, d'ailleurs. C'est votre cycle. C'est-à-dire, l'idée pour progresser, je pense qu'il faut poser le terme en termes positifs, même les questions et les solutions. Donc, une question en particulier, qu'est-ce que c'est l'espérance ? Même si vous dites...
Elle est subjective, je ne sais pas quelle est votre espérance.
Comme toute question.
Je ne sais pas quelle serait la mienne si demain j'étais dans cette situation, je ne sais pas.
C'est une question.
Voilà, je ne sais pas.
Bonsoir, alors notre question concerne les réseaux. En fait, nous sommes en étude d'assistant de service social et on nous a beaucoup parlé de travailler en partenariat avec les instances sanitaires et médicales. Mais vous, quand vous parlez de réseau, vous ne pensez pas aux travailleurs sociaux. Est-ce que par hasard, vous ne pensez pas que ça serait judicieux parmi les personnes... Enfin, je ne veux pas créer de polémique, hein, mais... Est-ce que ça ne serait pas judicieux pour les personnes, ben justement, sous soins palliatifs, de faire un travail avec ben les travailleurs sociaux qui peuvent être autour ?
Merci. Alors, voilà, vous me mettez dedans, là, c'est bien. d'abord, en équipe mobile de soins palliatifs, on a tout un pan de notre travail, comme dans les USP, qui constitue la formation et l'enseignement. Je ne sais pas où vous faites vos études, mais l'équipe est déjà intervenue plusieurs fois à l'IRTS parce qu'il me paraît absolument indispensable. Ça fait partie de la mission hein, des équipes mobiles, la pluridisciplinarité, le pluriprofessionnalisme. Donc voilà, on travaille avec nos collègues assistantes sociales, avec nos collègues masseurs kinésithérapeutes, avec nos collègues diététiciennes, avec nos collègues psychologues, avec les collègues ergothérapeutes, quand on arrive à en trouver, avec nos collègues psychiatres, avec nos collègues de l'ensemble du curatif, avec, voilà. Donc c'est vrai que on peut, voilà, mais vous avez tout à fait raison. Cet après-midi, j'ai fait une consultation avec une collègue assistante sociale parce que j'avais besoin de son aide. Il manquait des éléments qui ne sont pas en ma connaissance. Et vous voyez, c'est ça la particularité, c'est de faire ensemble une consultation. Bien sûr, à un moment, moi, je vais être un peu perdu dans la conversation parce que c'est moins mon domaine. Inversement, ma collègue assistante sociale va peut-être se retirer au moment de l'examen clinique, etc. Mais c'est comment arriver vis-à-vis d'un patient à essayer effectivement d'en suivre le pourtour. Qu'est-ce qu'il souhaite à ta domicile? Allez, d'accord, on est partant, mais sous quelles conditions? C'est pas oui, d'accord, allez-y, domicile, c'est super. Non, c'est comment domicile, etc. Donc on a besoin de collègues assistantes sociales pour faire le point des ressources. Savoir si ces gens peuvent bénéficier des fonds FNAS, qui sont des fonds qui sont dédiés actuellement aux gens qui sont pris en charge par leur famille à domicile. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison de souligner, je remercie.
Merci. L'énergie pour les réseaux, là, c'est bien.
Le micro ici. Le micro.
Et après, monsieur.
Vous avez parlé tout à l'heure de souffrance spirituelle. Qu'est-ce que vous entendez que par souffrance spirituelle et comment l'aborder? Et puis M. Montaz a parlé de tas de gens qui devaient collaborer les travailleurs sociaux. Tout. Est-ce que les équipes d'aumônerie auraient une place dans ce travail d'accompagnement?
Ou tu peux répondre sur souffrance spirituelle.
Non mais voilà, je veux dire, je suis sûr que j'ai encore oublié d'autres gens. Mais bien évidemment, nous avons, par exemple, pour la création de cette unité, nous avons réuni avec Catherine Boisseau les principaux représentants des principaux cultes, donc que ce soit le culte musulman, enfin l'islamisme, que ce soit le catholicisme protestant, etc., enfin orthodoxe, pour essayer d'apprendre, d'une part, pas faire de gaffe quand on est devant une personne d'un culte particulier, enfin, ou c'est pas particulier, c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, comment travailler ensemble, surtout si le patient le demande. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Nous ne sommes pas, alors ça c'est quand même un élément extrêmement fort, nous ne sommes pas intrusifs. On n'est pas là pour être curieux vis-à-vis de la vie des gens en disant hey, c'est quoi leur vie, machin et tout. Non. On est attentif à tout ce qui peut les aider, à tout ce qui peut les amener à prendre de la ressource, de la vie, etc. Ça peut passer pour les uns par l'environnement familial, pour les autres par la musique, pour les autres de retrouver ou de au contraire de s'aider de leur foi. Voilà. Mais si on repère dans ces éléments-là, effectivement, des éléments qui peuvent les aider, on va simplement, avec eux, s'ils nous y autorisent, essayer de leur dire, eh bien, au fait, ça, vous pouvez peut-être le faire le nombre de fois. C'est un exemple, mais de fois. Où les gens nous disent, on les voit, les collègues nous appellent en disant, ben, il ne marche plus, vraiment, ça perd d'autonomie, ça ne va pas du tout et tout. On les interroge pendant une heure et demie, puis on leur dit, ben, au fait, pourquoi vous ne marchez pas? Ben parce que je suis malade. Ah oui, mais moi, je crois que vous pouvez marcher. Ah bon? Oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas lève-toi et marche, hein, d'accord? On en est loin. Mais c'est-à-dire qu'on on fixe tellement notre regard en disant, oh, il est malade. Puis alors, si en plus, c'est du soin palliatif, oh, ben, il va mourir. D'accord? Donc, vous ne faites plus rien. Vous ne vivez même plus parce que vous risquez de mourir. Donc, voilà, on essaye de leur dire, mais là, vous n'êtes pas douloureux. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez quand même marcher. Ah ben oui. Et on voit des gens ainsi se remettre en marche. Alors, je reviens pour votre question, voilà, c'est que quelquefois c'est aussi de dire, quand les gens nous disent, on leur demande, hein, moi je fais la connaissance des gens, hein, c'est avant tout une rencontre, qu'est-ce que vous aimez faire, etc., qu'est-ce que vous faites comme métier, est-ce que vous avez une religion, est-ce que, et je leur explique pourquoi je pose cette question, en disant que j'ai besoin de faire connaissance avec eux et de savoir ce qui peut les aider. Et quand les gens me disent, eh bien, je suis de tel ou tel culte, je leur dis, est-ce que ça peut être une aide en ce moment? Oui, non. Et puis on avance si jamais ils le veulent. J'ai répondu à votre question? Oui. Peut-être pas.
Moi, j'ai envie de rajouter que la souffrance spirituelle, ce n'est pas seulement la souffrance religieuse. Spiritualité, ça veut dire la question du sens. La question du sens, elle est posée plus que jamais au moment où on est très malade et qu'on va mourir. Et la vraie souffrance spirituelle dont parle le Pernod, elle est là, c'est-à-dire quel sens ça a, ce que je vis actuellement. Voilà. Donc en fait, trouver du sens, ça peut être effectivement dans la religion, dans nos valeurs qui ont toujours été les nôtres, qui nous ont permis de donner sens à notre histoire, à notre existence, et du coup, qui va peut-être nous aider, dans ces moments difficiles, de continuer à trouver du sens. Parfois, c'est difficile. Hein. Donc, en fait, la religion étant une réponse parmi d'autres, et effectivement, il ne faut pas l'occulter. Alors, on parle de spiritualité au sens existentiel du terme. Et effectivement, dans les réponses, il y a la foi, quelle qu'elle soit, dans une religion ou dans une philosophie ou autre. Enfin, c'est ce que je voulais redire. Peut-être, monsieur Hirsch,
tout à fait d'accord avec vous. On est dans des champs qui ne sont pas des champs confondus, hein, le champ de l'existentiel ou du spirituel. Il y a une partie de ce champ-là qui est le champ religieux, mais c'est des référentiels ou des références qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à chacun. Et là, chacun est libre. Quand on parle des questionnements spirituels, on renvoie plutôt, en tout cas dans notre approche en soins palliatifs, aux questions autour du sens. Mais c'est dans quelque chose qui est plutôt sur un mode assez, j'allais dire, vif, hein, plutôt comme des questions du pourquoi ça m'arrive. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance parce qu'il y a un vrai affrontement, il y a des vraies choses qui remontent de l'individu qui des fois même l'envahit sur ces questions. Mais pourquoi moi? Et pourquoi ça? Et qu'est-ce que j'ai fait avec des choses qui sont autour de la faute, de la culpabilité? Pourtant, je n'ai pas fait ça. Le nombre de fois où on entend, pourtant, je n'ai pas fumé, je n'ai pas bu, et j'ai un cancer. C'est vraiment... Donc, la maladie grave, la mort possible, c'est quelque chose qui vient nous impacter très profondément. Et c'est en ça où ça amène à des situations de difficulté ou de souffrance auxquelles parfois il faut dire les choses. Si ben, il n'y a pas de réponse toute faite. Et un des éléments, en tout cas, du prendre soin est d'être toujours dans une dimension d'accueil de ça, de cette, peut-être parfois même de cette révolte, de ce cri d'accueil de ça, pleinement, en tant qu'être en face d'un autre être.
La souffrance vraiment doit être accompagnée à ce moment-là. On peut au moins être là, être témoin de cette souffrance. On ne peut pas faire plus, hein, mais au moins être témoin de cette souffrance. Parce que sinon, vous parliez d'espérance, c'est la désespérance et la tentation d'euthanasie qui peut, parce qu'on ne voit plus d'issue. Hein, donc en fait, le soutien spirituel, le soutien humain, des personnes proches, que ce soit la famille, les amis, ou des bénévoles. Parce que le statut de bénévole, enfin je parle de statut, la place du bénévole, elle est originale dans le sens où il n'est pas la famille, donc il n'a pas d'implication affective, il n'est pas le soignant, donc il n'y aura pas de soins particuliers à donner, il vient les mains nues, à l'écoute, être présent, vraiment, être témoin de ce que vit. Et je crois que c'est très important aussi que le bénévole soit à l'écoute et soutenir les familles, parce que les familles, c'est naturel qu'ils soient présents auprès des leurs. Ils sont tellement démunis qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'osent même pas pleurer, ils n'osent même pas dire leur chagrin. Alors, les bénévoles peuvent être témoins de ça et accompagner.
un monsieur qui voulait poser une question. Troisième rang là.
Puisque le docteur Hirsch a invoqué la faculté de granit, la faculté va lui répondre.
Merci.
J'ai travaillé en milieu hospitalier et je voudrais d'abord confirmer ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les aides-soignantes et les infirmières, surtout les aides-soignantes, sont beaucoup plus proches des patients que nous-mêmes. J'ai eu l'honneur de recevoir les équipes JALMAF durant de nombreuses années et c'était avec des réunions dans le service, c'était une évidence même que lorsque nous voulions connaître l'état moral d'un patient, il fallait se tourner vers les aides-soignantes. Alors je me suis interrogé et je me suis dit pourquoi les médecins sont-ils aussi loin des patients, du moins à l'hôpital. Le médecin, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a fait des études pendant 10 ans, qui a appris des maladies, le traitement des maladies, qui a passé des examens et qui espère vaincre la maladie et prolonger la vie. Voilà ce qu'on lui a appris. Et ça devient une espèce d'être conditionné qui, devant un malade, cherche la maladie, cherche le traitement, essaye de donner une sécurité très souvent artificielle aux patients et alentours, et puis à qui échappe en grande majorité le caractère humain de la situation. Et je ne suis pas persuadé que l'introduction des sciences humaines depuis quelques années en première année de médecine ait révolutionné la situation, et je pourrais vous en donner un exemple tout à l'heure. Donc, devant un malade, il se trouve en position d'interroger. Ah, je suis un malade, je suis devant une embolie pulmonaire, un cancer, qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la question qui se pose. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qui interviennent, il n'a pas le temps, il n'a pas beaucoup de temps, tous les médecins sont débordés, les généralistes comme les médecins hospitaliers. Mais je crois qu'il manque une dimension humaniste aux médecins et que, encore une fois, on ne leur a pas assez fait sentir cette dimension-là. Il faudrait que tous les médecins voient ce film merveilleux de Bergman qui s'appelle « Cri et chuchotement », dans lequel le meilleur traitement, c'est d'ouvrir le lit et de se coucher à côté de sa sœur pour la soulager. Car il y a un stade de la souffrance où la parole ne sert plus à rien. Mais je veux dire, oui, la proximité et l'attention prend des moyens tout à fait non conventionnels et qui sont les plus intuitifs et les plus efficaces, les plus proches. Donc ça, voilà ce que je voulais dire sur les médecins. C'est un petit peu, j'espère que le schéma que je dessine là est un peu dépassé à l'heure actuelle. En tout cas, il va à l'encontre de l'activité de tous les médecins de soins palliatifs auxquels je rends hommage. Mais encore une fois, je crois qu'il manque cette dimension. Alors il leur manque une autre chose, mais c'est le corollaire de cette nécessité de gagner contre la maladie. Il leur manque la modestie. Et je le dis très, très clairement. Je vais vous citer une anecdote qui est très révélatrice. J'ai un ami qui est médecin et dont la femme a un cancer. Elle se fait soigner dans un centre anticancéreux. On lui donne un médicament anticancéreux qui est connu pour donner des douleurs articulaires. Alors le jeune interne qui est là, qui n'a pas l'habitude de ce médicament, dit « Oulala, il va falloir voir si vous ne développez pas un syndrome paranéoplasique ou une complication du cancer ». Et mon ami, qui suit sa femme, dit « Mais avec ce médicament, les douleurs articulaires sont très fréquentes, c'est marqué dans le Vidal ». Et le médecin, qui voit son amour-propre bafoué, dit « Bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez ». Voilà. Donc c'est le type de réponse qui ne devrait plus exister. Mais il faudrait une transformation de la mentalité des médecins et de la transformation de la formation, la mentalité de la formation des médecins. Voilà la remarque que je voulais faire. Maintenant, je voudrais poser une question, si j'ai encore le temps.
Oui, au contraire, monsieur le président.
Alors, vous avez parlé, vous avez évoqué, vous avez effleuré le problème de la mort et plutôt du dialogue avec le patient sur ce qu'il peut penser de sa mort prochaine. Et c'est une question bateau, mais je ne l'ai pas résolue. Quand on est en face d'un patient dont on sait qu'il ne restera pas longtemps sur Terre, on est bien entendu tenté de lui manifester le respect, et le respect, c'est de dire la vérité. Or, quelqu'un a dit, et je crois que Marcel Franciscan l'a repris, La mort comme le soleil ne se regarde pas en face. Alors, entre le désir d'être tout à fait loyal vis-à-vis des gens et puis la peur de les projeter dans l'épouvante, il faut louvoyer et il faut bien entendu essayer de répondre un petit peu à la personnalité du patient. En ce qui me concerne, bon, j'ai rarement eu à affronter la situation de front, sinon peut-être tout à fait récemment. Je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire avec ce que les Américains, du moins certaines classes, estiment devoir être l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne dit rien de nouveau, on répond aux questions. On n'apporte pas... On dit des choses nouvelles, bien entendu, mais on n'apporte pas de notions définitives et on se tient à la disposition pour répondre aux questions et simplement aux questions. Eh bien, je me demande si la sagesse n'est pas de répondre au fur et à mesure aux interrogations, parfois un peu muettes, du patient. Et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet.
Tu veux répondre sur la formation ou
sur la formation de nos jeunes confrères. Alors c'est vrai que moi je trouve que c'est un paradoxe parce que beaucoup de gens s'engagent, soit médecins ou autres, s'engagent dans ce métier pour vraiment aider, donner, enfin c'est le rêve initial, etc. Et puis on passe dans un moule où on apprend à faire. Donc, eh ben vous avez une angine, vous faites ci, vous faites ça, voilà, c'est très stéréotypé. Cependant, les choses, tout doucement, évolue. Je vais vous donner un exemple concret, et on en a parlé avec nos collègues chirurgiens, où effectivement ils nous ont interpellés récemment parce que les patients qui ont des maladies digestives ou avec l'année qui à la fin de leur vie ou dans les semaines ou les mois, etc., peuvent être en occlusion, eh bien les collègues chirurgiens disaient, bah, nous, quand on est appelé aux urgences, qui sont en occlusion, on met une sonde, et puis si ça ne va pas, hop, on va opérer, on va mettre une poche de stomie. C'est ce qu'on a appris à faire devant des occlusions graves. Et puis, ça fait plusieurs années maintenant qu'on va un petit peu, qu'on fait qu'on propose, et de temps en temps qu'on rapporte la parole du patient en disant, mais non, il n'a pas envie d'avoir une poche, ce patient. Il n'a pas envie... pas envie de... Ce patient, il a 18 ans, il se voit tout en difficulté, et en plus, avoir une poche à cet âge-là, c'est difficile, et puis il a bien compris que les choses avançaient, et donc, voilà, la parole du patient, on leur rapporte, il existe des traitements qui ne vont pas traiter l'occlusion, mais qui vont amender un peu les symptômes d'inconfort, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est pas tant d'avoir une poche à la fin, et puis de mourir avec sa poche en disant « je suis plus occlus », c'est super, je peux mourir, je ne suis pas occlus. Et nous, ce qui nous, peu importe qu'il soit occlus ou pas occlus, c'est qu'il soit confortable. Et donc, pour revenir à cet exemple, c'est qu'il y a des collègues qui petit à petit, se disent bah, il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres champs à explorer. Et donc, on arrive à travailler avec eux pour... on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on va réfléchir avec eux. Et c'est le fait de cette... médecine. Alors, ça me fait drôle, professeur, que ce soit vous qui m'interpelliez dans ce domaine, parce que, voilà, je trouvais que dans votre service, c'était plus facile, mais c'était une parenthèse. Mais cependant, je trouve qu'il y a une progression dans la réflexion, dans la pluridisciplinarité, dans l'écoute de ce que peuvent apporter les autres, etc. Et puis, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut mieux se taire que de dire des bêtises, j'espère que j'en dis pas trop ce soir. Mais devant une souffrance absolument difficile, pour ne pas employer le mot épouvantable, il n'y a pas forcément de médicaments, il n'y a pas forcément des choses toutes faites dans les livres, etc. Mais je vais dire des choses bêtes, hein, c'est-à-dire d'être en face, ça ne veut rien dire, mais d'apprendre, excusez-moi cet abus de langage, à aimer l'autre. Alors à aimer l'autre, c'est-à-dire d'être avec lui, avec cette souffrance, de la comprendre ou d'essayer de la comprendre, et puis de s'en approcher et d'être avec. Il n'y a rien de pire pour les patients à un stade, et je pense que mon collègue peut en parler, que d'être abandonné. Abandonné par tout le monde, parce que on a les amis se deviennent rares, l'entourage, etc., est en difficulté, hein, ce n'est pas de la mauvaise volonté. les soignants, on ne peut plus rien vous proposer, ça c'est épouvantable. Et donc d'être avec eux en disant, de toute façon, on sera là, dans la tempête, etc. Voilà, on sera là, et quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la quantité, c'est, vous voyez, combien de temps il va me rester à vivre ? Je ne sais pas. Et ça, c'est une vérité, je ne sais pas. Ça peut être 10 minutes, vous pouvez mourir d'une embolie pulmonaire. Ça peut être quelques jours, quelques semaines et tout, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de votre vie. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Et là, les gens, ils sont partants, hein. Ils prennent ce billet-là. Et puis la question de savoir combien de temps exactement, 3 mois et 3 jours, tout ça, c'est fondu. Voilà pour la première partie que je voulais simplement me permettre de compléter. Je te laisse.
Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours dans des associations d'idées, puisque vous nous dites nous faire bondir. Moi, je rebondirais par rapport à la vraie interrogation que vous souleviez autour de la place, par rapport à la parole de l'autre, où est-ce qu'il en est. Alors moi, j'aurais peut-être deux éléments. Je dirais un des premiers travaux du médecin, me semble-t-il, c'est de se sortir de cette espèce à la fois de toute puissance et d'enfermement qu'il serait, je mets un conditionnel, en sachant que l'autre va mourir. C'est-à-dire que, et alors ? Ouais, mais si l'important est déjà de se décaler. C'est-à-dire quand on dit, on sait que voilà, il a un cancer, il va en mourir. Oui, et alors ? Et je dirais ce « et alors » qui est important. C'est-à-dire que arrêtons de nous mettre dans la place aussi de ceux qui seraient, comment dirais-je, les porteurs de ça. Mettons-nous dans l'ouverture aux autres choses. Puis la deuxième chose, c'est cette histoire autour de la vérité, de la parole du patient. Moi, je suis frappé du nombre de patients, mais je pense que pour Laurence, c'est pareil, pour lequel on nous appelle, on nous dit, attendez, il y a un gros problème. Hein. Il y a un gros problème. Il est dans le déni le plus complet. Et il est totalement dans le déni, ce patient. Il n'a rien compris que son cancer allait le tuer rapidement. Et il fait... Alors, nous, on a une chance extraordinaire. Les équipes de soins palliatifs, c'est qu'on est des tiers. On ne connaît pas, on n'a pas des années d'histoire, enfin parfois on en a avec certains patients sur des maladies chroniques, mais souvent on est des tiers, on est des extérieurs, on est dans une position relativement neutre, on n'est pas du cancérologue à qui on demande de sauver très souvent, on est un peu des tiers. Et puis alors vous arrivez, vous dites, excusez-moi, mais je ne vous connais pas bien, je ne connais pas votre histoire médicale. Vous pourriez m'en dire quelque chose ? Et là, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure du récit. Et là, ce patient qui était soi-disant dans un déni total, qui n'avait rien compris, vous dit tout. Vous recite vous redécrit son parcours médical. Très bien compris que quand on l'avait hospitalisé pour lui dire qu'il y avait un autre polype, il s'était dit non, ça c'est pas vrai, c'est pas un autre polype, c'est mon cancer qui recommence. Et la deuxième, c'est-à-dire que l'important est aussi d'ouvrir vraiment ce champ à la parole du patient, ses représentations, ses espoirs, ses désespoirs, et que nous, là, l'important, c'est de, et aussi dans notre place de médecin, bien entendu, ça, je crois que c'est très important, d'être auprès de l'autre, de pouvoir continuer à accompagner. Et souvent, il y a des ressources extraordinaires qu'on arrive à mobiliser, que les patients, que les personnes arrivent à mobiliser eux-mêmes, plus que, entre guillemets, un diktat dans lequel nous nous mettons en position de dire « oui, vous allez mourir ». Sortir de ça, c'est complètement bloquant. Moi, je trouve que c'est comme se rendre compte que la médecine est extraordinaire. Moi, je suis content de faire ce métier de médecin. On a fait des progrès sublimes et c'est bien. On a fait, par exemple, des progrès extraordinaires avec, je ne parle pas des antibiotiques, qui sont l'archétype du traitement curatif génial. On a fait des progrès extraordinaires avec la chimiothérapie. C'est super, continuons à en faire. Mais d'un autre côté, reconnaissons aussi que parfois, voilà, malgré tous nos efforts, là où on en est, on ne peut pas lutter contre une maladie et qu'au bout, il y a la mort. Et quand on met ça, non pas dans ce sentiment d'échec, eh bien, on s'ouvre des pistes. On s'ouvre énormément de pistes. Des pistes qui passent par l'écoute à l'autre. Et à ce moment-là, on peut cheminer en sachant qu'on n'a parfois pas beaucoup de réponses.
Mais cheminer avec l'autre, c'est aussi une manière de prendre soin.
Avant de prendre d'autres questions, on va écouter Catherine Boisseau nous présenter l'unité de soins palliatifs qui va s'ouvrir.
Non, ce sera beaucoup plus simple. Pas de
vous avez remarqué, ils sont en train de me torturer.
Un plus difficile, c'est de faire glisser les verres et pas se tromper.
Alors, c'est un petit peu difficile pour moi d'intervenir après tout ça. Je vais simplement vous présenter rapidement, et puis peut-être qu'il y aura des questions et ce sera plus intéressant. Donc, l'unité de soins palliatifs qui s'ouvre au CHU. D'abord, elle s'ouvre, elle fait partie du centre hospitalier de Poitiers, mais elle s'ouvre dans un bâtiment qui n'est pas dans la Grande Tour, qui est le site de la Milletterie, dans ce qu'on appelait un pavillon, même s'il ne faut plus dire ça, qui a la chance d'être dans un parc avec un environnement qui est agréable. Et ça, c'est important parce que c'est un lieu spécifique. Là aussi, c'est un mot qu'il ne faut plus employer, mais je l'emploie exprès. Un lieu spécifique, on a voulu réfléchir à ce lieu comme à une maison hospitalière, au sens, moi je dirais, d'hospitalité. Pas oublier que l'hôpital aussi, hôpital, hospitalité, un lieu d'accueil. C'est plus une maison hospitalière qu'un service de soins. Donc le fait qu'elle soit à part, déjà, c'était un petit peu une chance. La deuxième chose...
Comment ?
Une chance et une volonté, oui, voilà. La deuxième, très concrètement, cette unité donc, comportera 10 lits d'hospitalisation complète. 10 lits, bon, M. Montaz et M. Hirsch en ont parlé, 10 lits sur la région, évidemment, c'est très peu, mais c'est déjà mieux que rien. Hein. Donc on ouvre 10 lits, l'ouverture, l'accueil des premiers patients aura lieu lundi, l'inauguration a lieu samedi. Et puis on a surtout beaucoup réfléchi d'une part à l'ambiance qu'on souhaitait créer dans ce lieu. Donc ça veut dire qu'on a réfléchi aux locaux, on a réfléchi aux couleurs, on a réfléchi à la disposition, même s'il y a des contraintes techniques qui font qu'on a réhabilité un ancien bâtiment. L'idée était de permettre de redonner cette douceur, cette quiétude, de permettre aux patients et aux familles de retrouver... Souvent, après un parcours hospitalier très long, très douloureux, un lieu chaleureux. Donc, on a essayé de créer une ambiance intime, chaleureuse, accueillante, harmonieuse, j'ai envie de dire. Et puis, le deuxième élément, c'est une réflexion forcément autour de l'organisation des soins. Parce que qu'est-ce qui diffère dans une unité de soins palliatifs de ce que tout le monde essaie de faire souvent très bien et du mieux possible dans tous les services ? C'est qu'on organise le soin autour des besoins du patient. Je vais donner des exemples concrets. S'il dort, eh bien, il dort. Il n'y a pas de loi hospitalière qui oblige à faire sa toilette avant 11h30. S'il veut manger à minuit, il mange à minuit. S'il ne veut pas manger, il ne mange pas. Et du coup, on organise vraiment le soin autour de la vie du patient pour essayer de vivre à son rythme, ce qui malheureusement n'est pas possible dans une structure où on a 30 patients. C'est évident. Hein. Et puis un lieu où on n'accueille pas toutes les personnes qui sont prises en charge ailleurs. Ça a été dit déjà plusieurs fois. Donc vraiment les patients qui présentent des situations complexes, particulières. Les admissions, elles sont programmées. Donc là aussi, c'est difficile. Comment faire un choix entre les différentes personnes ? On a donc créé un dossier d'admission avec des critères particuliers qu'on pourra montrer. C'est peut-être intéressant, sauf si vous avez des questions. Et puis, donc, une réflexion autour du travail d'équipe. Donc, je vais vous présenter l'équipe rapidement. Il y en a beaucoup qui sont dans la salle. Donc, l'équipe sera composée de 9 infirmières, 8 aides-soignantes. Je vous épargne les temps partiels parce que je ne vais pas couper une aide-soignante en morceaux, mais il y a aussi des temps partiels. Un kinésithérapeute à temps partiel, une assistante sociale à temps partiel, une psychologue à temps partiel. Aide-moi parce que je vais forcément oublier quelqu'un. La secrétaire à temps partiel. Comment ? Assistant social, je l'ai dit, oui. Diététicienne, pour l'instant, non. Même si le fait d'être rattaché, ça je ne l'ai pas dit, au pôle de cancérologie est important, puisqu'on pourra bénéficier aussi, si vraiment le besoin se fait sentir, de conseils d'une diététicienne. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un au niveau des professionnels de santé ? Oui, le médecin, mais... J'essaie de l'oublier, mais je n'y arrive pas. Donc, c'était une évidence. Un cadre, hein, voilà. Donc, le médecin, le cadre. Et puis, on a réfléchi à la manière dont on allait travailler avec l'association Jeanne Malve, hein, puisqu'on avait, on a pris contact, on a organisé. Les bénévoles seront présents 4 après-midi par semaine. Les bénévoles, ils font partie de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont là et que si les familles ont besoin, voilà, on se croise dans les couloirs. Les bénévoles participeront aux différents temps de concertation, à la réunion de synthèse. Et là aussi, on a réfléchi à l'importance, on en a beaucoup parlé, d'assurer la cohérence des soins. Et peut-être que ce qui nous fait beaucoup souffrir en tant que soignants dans les services X ou Y à vocation purement curative, c'est souvent le décalage entre ce qui semblerait, pour l'équipe soignante, être soignante infirmière adaptée, et les prescriptions. Et parfois, le manque de temps ou le manque de concertation qui font qu'on ne comprend pas. On a, voilà, il faut faire la prise de sang de monsieur un tel qu'on a déjà fait ce matin, il faut la refaire. Peut-être qu'on n'a pas bien compris l'objectif. Du coup, c'est vécu pour les soignants souvent comme de l'acharnement. On nous dit qu'il faut absolument se lever ce malade pour pas qu'il ait d'escar, et puis nous on voit bien que tout ce qu'il voudrait c'est rester couché dans son lit. Je suis pas sûre qu'il y ait plus d'escar au lit que mal installé dans un mauvais fauteuil, et ça c'est clair. Voilà, donc là vraiment il y a des temps de concertation qui sont qu'on a réfléchi, qui sont structurés, qui font partie du temps de travail. Donc les transmissions bien sûr, mais des transmissions c'est juste fait pour passer le relais à l'équipe d'après. Ce qui est important, c'est les temps de réunion clinique tous les jours, où on passe en revue tous les dossiers des patients qui posent problème. On va essayer de comprendre quelles sont les situations, et à chaque fois une évaluation sur le plan physique, psychique, social, et moi je dirais plutôt existentiel que spirituel pour être plus large. Et on va s'attacher à chaque fois à essayer de cerner où sont les difficultés pour ce patient sur ces 4 grands domaines-là. Ensuite, la réunion de synthèse, qui est la réunion où là, toute l'équipe au grand complet est invitée, de l'assistante sociale en passant par le bénévole, la coordinatrice des bénévoles, le médecin, les aides-soignantes, la psychologue, tous les gens qui seront intervenus dans la prise en charge. On va se poser là pour réfléchir au projet de vie de chaque patient, puisqu'on est dans la vie et pas dans l'accompagnement de personnes qui seraient déjà mortes, parce que si on les regarde encore une fois comme des gens qui sont déjà morts, je crois qu'ils n'ont qu'une envie, effectivement, c'est de disparaître. Donc quel est le projet pour ce patient? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une réévaluation aussi des patients, parce que pour avoir travaillé en soins palliatifs, dans les unités de soins palliatifs, il y a quelquefois des patients qui se stabilisent, on ne sait jamais. Et puis, ils vont tellement bien qu'au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? L'unité de soins palliatifs, c'est un lieu de court séjour. C'est important. On est soumis, sur le plan économique, à la tarification à l'activité, dont on parle beaucoup à l'hôpital, mais ça veut dire qu'il y a une borne basse, une borne haute, et que si on dépasse l'une ou l'autre, on est pénalisé économiquement. Donc, il faut le savoir, même si notre mission est de soigner. Et puis, parfois, des personnes pour qui on a aussi le sentiment, peut-être, qu'ils sont tellement bien, et nous, de faire tellement bien, qu'on ne se pose plus la question de savoir si, peut-être, il y aurait encore autre chose à réfléchir, un retour à domicile, un autre lieu d'accueil qui serait plus adapté. Donc, des réévaluations régulières à partir des critères qui seront les mêmes critères que ceux que les critères d'admission. Et puis, bien sûr, pour les soignants, parce qu'il faut aussi prendre soin des soignants, une supervision pour l'équipe soignante, pour pouvoir parler de son ressenti, évoquer des situations qui ne sont pas forcément des situations épouvantables ou difficiles. On peut aussi être content. Il faut aussi s'autoriser à être content. À être content, même si c'est difficile, parce que peut-être qu'on a le sentiment d'avoir fait bien ce qu'on pouvait faire, ou au moins le moins mal possible. Sinon, on est vite dans la désespérance, et je crois qu'on ne peut pas travailler dans un lieu comme celui-là sans se donner des temps aussi de prise de recul sur ce qu'on a fait avec une psychologue qui est extérieure au service. Bon, je fais très rapidement. Laurent, tu veux rajouter quelque chose, peut-être ? Bon. Alors, j'ai juste, comme ça, pour vous donner une petite idée, si ça s'ouvre, le dossier d'admission, donc on a constitué un dossier d'admission qui est spécifique, puisque l'admission, elle est basée sur différentes choses. Je passe très vite, mais pour vous montrer. D'abord, tous les critères qui concernent l'environnement social et familial du patient, donc les personnes référentes. Ah, de quoi est-ce ? Je ne sais pas, c'est écrit en anglais. Je ne comprends rien.
OK.
Non.
Merci. Alors, bien sûr, la pathologie principale, l'histoire de la maladie, les symptômes présents, c'est extrêmement important, une évaluation des symptômes, donc douleur, altération de l'état cutané, symptômes respiratoires, je ne vais pas tous les citer. On a rajouté un critère aussi qui concerne les risques possibles, comme les risques d'hémorragie, le risque de dyspnée, l'évolution au cours des 15 derniers jours, ça peut donner aussi une idée du pronostic, parce que ça, c'est extrêmement difficile. Je remonte, le traitement, bien sûr, et là, on a plutôt parlé de projet thérapeutique. Est-ce que les traitements curatifs à visée purement curative ont été arrêtés ? Est-ce qu'il y a des transfusions régulières qui sont nécessaires ? Les traitements actuels, l'alimentation, entérale ou parentérale ? Et puis, forcément, et ça c'est extrêmement important, l'information donnée au patient concernant son diagnostic, son pronostic, et puis son transfert en USP, parce qu'il faut imaginer ce que peut vivre un patient qui arrive dans ce lieu quand on lui a à demi-mot fait comprendre qu'il allait en convalescence et qu'il arrive et qu'il voit sur la porte unité de soins palliatifs. Ça existe, hein, et là aussi, donc ça fait partie quand même des choses importantes. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on a été violent dans la manière dont on a expliqué. Et c'est ça qui est difficile, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus, mais on peut dire les choses de manière authentique en prenant en compte la vulnérabilité, la fragilité de chacun. Donc, est-ce qu'on a informé aussi la famille, la même chose, le contexte psychosocial et familial, parce que ça peut être un motif d'hospitalisation, une souffrance psychologique majeure du patient ou de l'entourage, une problématique sociale comme l'isolement, la précarité, vous en avez parlé un petit peu, la difficulté d'accès aussi pour les gens en situation de précarité, l'épuisement familial, une situation familiale difficile, et là on peut écrire. Et un dernier critère qui est autour des problématiques éthiques complexes, éventuellement le refus de soins, une demande d'euthanasie formulée, une demande d'arrêt ou de limitation de traitement, et puis des questionnements concernant la poursuite ou l'arrêt ou la limitation, je vais y arriver, de l'alimentation ou de l'hydratation. Le type de séjour demandé, oui. Dans les personnes référentes. Dans les personnes référentes. Alors, la personne de confiance. Alors, ce dossier, c'est l'équipe qui connaît le patient qui le remplit. La personne de confiance aujourd'hui. Alors, on est tenu d'informer chaque patient qui se présente à l'hôpital aujourd'hui de ce qu'est la personne de confiance. Alors, c'est. C'est à l'entrée à l'hôpital, quel que soit le motif d'entrée, en principe, en sachant que c'est extrêmement difficile. Et beaucoup de patients, on donne le formulaire à l'entrée, mais très peu de gens le remplissent, en fait. Hein. Tout à fait. Hein. Mais ça, ce dossier-là sera rempli par l'équipe qui demande une admission à l'unité de soins palliatifs, en amont. Oui. Oui, c'est pas toujours le conjoint, hein, mais là.
Vous avez raison de souligner la difficulté qu'il y a à donner corps et à faire passer dans des habitudes des références qui apparaissent dans des textes réglementaires ou les lois. La personne de confiance, pour mémoire, elle était déjà dans la loi du 4 mars 2002. Elle apparaissait pour la première fois. Elle a été remise en avant
par la loi dite Leonetti du 22 avril 2005. Nous n'avons pas encore, il y a eu quelques travaux quand même, mais ça va arriver parce qu'il y en a dans des EPP, des évaluations des pratiques professionnelles. Globalement, vous savez que c'est réglementairement, chaque personne hospitalisée devrait désigner une personne de confiance en pratique, pour faire très très à l'arrache. On sait que c'est renseigné dans à peu près 50% des dossiers, et on sait que dans ces 50% de dossiers renseignés, il n'y a que à peine 50% et peut-être même moins de nombre de personnes qui correspondent vraiment à des personnes de confiance. C'est qu'est-ce que globalement, on a demandé peut-être par un soignant ou à l'entrée, vous avez une personne de confiance, et on donne la fille qu'on doit appeler parce qu'on confond avec la personne qu'on appelle. Voilà, donc il y a des éléments de confusion, mais ça c'est très important ce que vous soulevez, parce que d'abord, un, ça veut dire qu'il faut informer, toujours informer où que ce soit sur qu'est-ce que ça veut dire la personne de confiance et à quoi ça sert, et deux, il faudra probablement avoir des éléments de suivi, d'évaluation, parce que là, en effet, on manque d'éléments d'évaluation, par exemple, pour mesurer comment ce dispositif, la personne de confiance, s'enracine dans les habitudes. Parce que pour l'instant, voilà, le constat qu'on fait au niveau global, il est celui-là, il y a beaucoup de confusion.
Est-ce que vous avez remarqué que ce sont souvent les médecins qui sont non, pas particulièrement. C'est très variable, oui.
Et qui sont désignés en tant que personne.
Oui, qui sont désignés en tant que... Non.
Non. Pour terminer, une évaluation de l'autonomie et de la charge en soins. Et puis, voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions concernant particulièrement l'unité de soins palliatifs ou d'autres questions.
Vous n'avez pas parlé des familles et des proches. Comment sont-ils accueillis dans le service ?
Voilà, j'ai été perturbée parce qu'on me dit d'aller vite. Alors, et puis, bien sûr, les familles, il n'y a pas de contrainte horaire. Les familles sont accueillies quand elles le souhaitent, 24 heures sur 24 si elles le souhaitent. Il y a un lieu d'accueil pour les familles à l'intérieur de l'unité, hein, un espace famille avec un petit coin cuisine, un endroit où ils peuvent dormir et une salle de bain réservée aux familles. Et puis, un petit salon d'accueil qui est plutôt un salon polyvalent. Qui est ouvert à tous, aux familles, aux bénévoles, bien sûr, pour se poser avec eux, la psychologue quand elle se passe, un soignant qui croise la famille dans le couloir et qui peut-être, on sent beaucoup d'émotions parfois et c'est un peu difficile de dire venez, je vous emmène dans le bureau, donc on se pose là. Voilà, donc oui, bien sûr, l'accueil des familles a été réfléchi avec aussi un lit d'accompagnement dans chaque chambre. Si possible, et puis bien sûr la maison des familles qui est tout à côté, si les personnes souhaitent aller à la maison des familles du CHU qui est tout près en fait du bâtiment Joseph Garnier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors oui, on me rappelle aussi que je n'ai pas non plus parlé de notre magnifique salle de bain. Avec une. Non, mais c'est tout à fait, Laurent a raison. Nous avons pu obtenir une baignoire à ultrasons. Une baignoire à ultrasons qui permet d'abord. Qui a des vertus antalgiques et qui permet de donner des bains, de faire de la relaxation. On a une infirmière qui est formée à l'hypnose, donc ça permettra de faire vraiment des bains thérapeutiques, des séances d'hypnose, des séances de relaxation, de la musique dans la salle de bain. Et puis bientôt. Un joli plafond avec des étoiles que le patient pourra voir quand il est couché dans la baignoire. Donc bien sûr, une baignoire à hauteur variable avec un système qui permet de baigner même une personne qui est grabataire. Il ne faut pas enjamber la baignoire. Il y a un système de transfert qui permet de baigner, j'allais dire, tout le monde, même très fatigué, même quel que soit son état de dépendance. Et puis un système aussi de... pour donner la douche au lit, certains soignants connaissent sans doute dans les EHPAD, qui permet aussi de donner une douche dans le lit quand le patient n'aime pas le bain. Ou voilà. Là aussi, le but est de proposer chaque fois un soin, de proposer un moment de bien-être. Alors, je parle de l'hypnose, mais les massages, la relaxation, la musique, enfin...
Beaucoup de questions.
Je voudrais juste avoir une information, parce que j'ai pas d'idée et je n'en trouve pas. Enfin, j'arrive pas à trouver de consensus. Dans l'acharnement thérapeutique, admettons un jeune, donc un AVC, enfin bref, quelque chose. Et donc on le nourrit, donc enfin on l'intube, on l'extube, et en fait, manque de chance, il respire sans assistance. Et donc là, il peut partir pour une durée X. Alors est-ce que ça, le fait de le nourrir maintenant, donc souvent c'est des jeunes, enfin bon, prenons le cas des jeunes. Donc ils sont en excellente santé souvent au niveau organique, on les nourrit maintenant d'une manière extraordinaire au niveau nutritionnel. Est-ce qu'il y a des projets dans ces unités-là au niveau de l'éthique pour savoir où commence l'acharnement, est-ce que ça dépend des équipes ou est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Ou est-ce qu'il peut rester, comme j'ai vu, 19 ans, dans un état voilà. Mais alors, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il reste 19 ans, hein, parce que je pense qu'au contraire, certaines familles arrivent à lier une relation qui est très intéressante avec quelqu'un qui est en mort cérébrale. Mais je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on le laisse partir dès qu'il fait une surinfection? Parce que moi, j'ai travaillé dans des hôpitaux où, en fait, non. Même s'il faisait une surinfection, on soigne. Ce genre de patient. Donc, je me disais, qu'est-ce que ce genre de patient... Alors, donc, ceux-là, souvent, ils ne sont plus au CHU, hein, c'est certain. Ils vont dans des hôpitaux locaux. Et donc, là, ben, le problème, on n'est pas encore en T2A, donc ça va. Mais je veux dire... Bon, alors... Moi, je suis assez choquée le fait de parler de vie, de mort, projet de vie. J'ai toujours l'impression qu'on a peur de parler de la mort. Projet de vie pour quelqu'un, enfin, oui, si vous voulez, je trouve que ça donne bonne conscience, mais bon, quoi, dire qu'on va mourir, je ne sais pas. Moi, ça ne me fait pas peur de penser que si on a fait des démarches avant et tout, enfin bon, moi, c'est ma vue, parce que maintenant, on commence à des démarches. Alors, un projet de vie pour quelqu'un qui n'a plus que 10 minutes, j'avoue que... Bon, si, c'est très intéressant, hein, je veux dire, c'est bien. Enfin, bon, voilà. Mais enfin, bon, admettons, alors un projet de vie pour quelqu'un qui, donc, est en mort cérébrale, est-ce qu'il y a un consensus?
Je suis désolé, mais je crois avoir compris le sens de votre interpellation. Alors, pour un projet de vie à 10 minutes, je ne connais pas. Hein, peut-être mon collègue, peut-être, est spécialisé, j'ai en plus, non? Bon, non. Nous non plus, on ne connaît pas.
C'est la cadre qui dit projet de vie de 10 minutes.
Oui, non, non, mais attendez. On essaye de se faire comprendre avec des mots. Oui. Peut-être qu'on n'emploie pas toujours les bons mots, effectivement. Projet de vie à 10 minutes, je ne connais pas. On essaye d'être dans la vie, voilà, c'est ce que je pense qu'on voulait dire et j'espère que vous nous avez compris.
Oui, mais je trouve que alors, par rapport à la famille, on peut oser dire des choses.
Oui, mais on les dit, vous savez. Oui. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on ne les dit pas de façon violente.
Oui, oh ben ça, je pense que...
Voilà, ben donc on parle le même langage, vous et moi. Vous voyez, on ne les dit pas de façon violente. Et ça, je crois que ce n'est pas compliqué de parler de la mort avec quelqu'un, mais à condition... que ça soit lui qui nous autorise à en parler. Vous n'avez pas peur de la mort. Bravo.
Non, c'est pas que j'ai pas peur.
Non, mais bravo. Et tant mieux, enfin, je veux dire. Mais il y a tellement de cas différents. Il y a des gens qui ont passé leur vie en disant, moi, la mort, pas de problème. Dommage que quand ça se rapproche, c'est plus compliqué. Et d'autres gens qui étaient extrêmement angoissés par la mort. Et puis bon, enfin bref. Les états végétatifs. Alors là, c'est toute autre question. Complexe, etc. Il y a dans cet aspect, mais il faudrait développer une soirée là-dessus. Et pas quelques minutes, parce que là, je vais répondre de travers, etc. Mais là aussi, vous avez un jeune, 18 ans, accident, intubé, extubé, opéré, etc. Bref, au total, il est dans un lit, dans un état végétatif. Bon, peu importe les termes aujourd'hui, on comprend tout ce que ça veut dire. Votre question, c'est à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on se pose les questions, etc. On espère que progressivement, avec les nouveaux services qui se mettent en place en France, des services pour s'occuper justement des gens qui sont dans ce type de coma, dans ce type de vie, on puisse aussi s'en occuper. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle ou en France a une réponse de dire « voilà ce qu'il faut faire ». Débrancher, brancher, brancher, surbrancher, affecter. Par contre, ce qu'il faut, c'est se poser, comme ce qui est fait dans les soins palliatifs, se poser avec les équipes qui s'occupent de ces patients, se poser avec les familles, se poser avec l'histoire de ce jeune, et peut-être autoriser à une famille qui, au début, disant « faites tout ce que vous pouvez pour le sauver, mais laissez-le moi, même si il est dans le coma, mais laissez-le moi, je vous en supplie », peut-être que cette même famille, dans 2 ans, dira « je ne peux plus, j'ai compris, laissez-le partir ». Et là, on se reposera la question de l'alimentation, de la conduite à tenir devant une surinfection, etc. Laissons le temps aussi, prenons le temps. On est dans une société où de toute façon, il faut tout faire rapidos, etc. Prenons le temps, laissons aux autres aussi un petit peu le temps pour digérer ces traumatismes. Et puis, comme il n'y a pas de réponse toute faite, c'est pas Hollywood chewing gum Coca-Cola, eh bien effectivement, il faut peut-être du temps, du moment que cette personne, en plus, on est certaine qu'elle n'est pas douloureuse. On peut être dans un état de perte de vigilance et être inconfortable. Donc ça, déjà, c'est l'obsession. Est-ce que cette personne, même si elle ne nous le dit pas, est-ce qu'elle est douloureuse ou pas? Et avoir du temps pour voilà, apprécier, évaluer, soignants, médecins généralistes, infirmières libérales qui ont connu la famille, etc. On se pose, on réfléchit, et puis on se repose, on se re-repose, etc. On ne se repose pas dans le sens où on ne roupille pas, mais voilà, se poser ensemble, réfléchir ensemble, voilà, le temps de la réflexion, et admettre, surtout admettre, que l'on puisse changer d'avis, et que les familles puissent changer d'avis. Voilà, c'est un bref résumé de ce que je pense...
Je voulais répondre à la question. M. Montas a déjà parlé une bonne partie. Bon, voilà, en fait, c'est vrai que nous, en tant qu'infirmières, si on arrive au moment qu'on arrive au monde, on sait qu'on va mourir. Donc, automatiquement, la mort arrivera pour n'importe qui, pour la fleur, pour le chat, pour tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que la mort va arriver. Donc, on la vit. Et on la vit jusqu'au dernier moment. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens, quand vous dites qu'ils sont paralysés, qu'ils sont dans un lit, ça, ensuite, c'est des cas particuliers où on parle du patient particulièrement. Justement, c'est là où on se rend compte, bon, pas en 10 minutes, où il y a toute une équipe qui se réunit et on parle du projet de vie de ce patient qui, pour l'instant, est toujours en vie. Et ensuite, à partir de là, la famille est là aussi. Hein, c'est pas que le personnel soignant, c'est toute l'équipe, les gens qui peuvent apporter un plus pour ce patient. Et à partir de là, on voit ce qu'on fait pour ce patient. Voilà. Mais on ne peut pas dire il est mort, même s'il doit mourir dans 10 minutes. Peut-être que dans 10 minutes, ce sera un de nous qui sera mort. Je veux dire, c'est bête ce que je dis, mais on ne sait pas qui va mourir dans 10 minutes. J'ai une patiente pour une expérience que je veux donner. J'ai une patiente, j'étais infirmière libérale, et un médecin qui m'envoie, une famille qui m'appelle, qui me dit, voilà, il faut venir accueillir maman. Les médecins ont dit qu'elle va mourir d'ici une semaine. C'est une patiente qui avait une carcinose péritonéale qui était vraiment très, très lourde. C'était en mois d'octobre, lourde au niveau médical, hein, pardon. C'était au mois d'octobre. Cette patiente est morte en août d'après. Et la chose que j'ai retenue, c'est qu'elle m'a dit, voilà, c'est le plus beau Noël que j'ai passé. Elle savait pas qu'elle allait mourir. En tout cas, personne ne lui a dit, ni les médecins, ni la famille. C'était le désir de la famille. Mais elle pensait qu'elle allait vivre, mais c'est avec le temps, en février, mars, elle a vu que ça n'allait pas bien, elle a réalisé qu'elle allait mourir, et puis elle s'est laissée partir. Mais avant de partir, il y a une chose qu'elle m'a dit, j'ai passé le plus beau Noël et jour de l'an de ma vie. Et ça, c'est important. Voilà, si on lui avait dit qu'elle allait mourir, peut-être qu'elle aurait dit, bon, ben, c'est pas la peine qu'on fasse la fête, je vais mourir. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si j'ai un petit peu... Voilà.
En tout cas, merci de venir sur des terrains difficiles. Voilà, avec ce questionnement. Tout à fait.
Il se fait tard. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, excusez-moi. Je n'ai pas vu votre...
En fait, pour terminer, il s'agit d'un témoignage. J'ai eu le bonheur d'accompagner une dame... Hein. qui avait changé plusieurs fois de maison de retraite. Et je crois qu'il faut aussi oser être soi-même. Et comme la société française a occulté, et vous le faites d'une manière admirable, la dimension spirituelle, je crois que c'est très occulté. Donc on passe par le philosophique, les philosophies, la spiritualité existentialiste d'une manière très... Moi, à cette personne que je connaissais depuis 4 ans, parce que ça fait que 9 ans que je suis à Poitiers, que je connaissais depuis 4 ans, je lui ai dit, mais parce que cette personne avait de grands biens, et enfin, je ne sais pas, il faudrait avoir le monde entier pour m'acheter. Moi, je ne sais pas faire avec ces gens qui ont de grands biens, des fortunes. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes angoissée, est-ce que vous voulez que j'appelle un prêtre? Je connais un prêtre ici, je peux vous l'appeler. Elle m'a dit, oui, je serais contente de le voir. Si je ne lui avais pas dit, elle n'y aurait peut-être pas pensé. Ce prêtre est venu la voir, c'était à Châtellerault il y a quelques années, 2 ou 3 ans, et ce prêtre est venu en soutane, enfin, c'est un jeune, et cette dame, elle a tenu à m'appeler. C'est incroyable comme ça lui a fait du bien. Et encore une chose incroyable, je l'ai appelée un 11 septembre, et dans la nuit, elle est morte. Comme si elle se sentait autorisée à partir. Il y avait de grands problèmes familiaux et tout ça, mais je crois que parfois, il faut, sans être intrusif, parce que la foi, elle est culturelle, elle n'est pas que personnelle. Et je crois qu'il y a une grande formation à faire là-dessus, à assumer nos origines, notre culture, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui n'est... C'est bâtard, il n'y a pas vraiment de culture, tout le monde pense ce qu'il veut, et on crée de l'anxiogène. Ça fait marcher les laboratoires, mais... Enfin voilà, j'ai cette expérience que je voulais vous partager. Et pour finir, est-ce qu'on ne pourrait pas choisir le meilleur exemple de soins palliatifs, n'est-ce pas, Mère Teresa ?
Merci.
Merci, parce que j'ai pas juste aisément de vous répondre pour dire que non, je ne pense pas que ni dans les équipes de soins palliatifs, ni au niveau, par exemple, de la Société française de soins palliatifs, on occulte la dimension, alors appelons-la spirituelle, existentielle, la dimension religieuse. Tout ça, c'est des champs qui sont des champs complémentaires. Non, je ne pense vraiment pas qu'on l'occulte, en effet. Au contraire, je pense que c'est même dans ces équipes, c'est même au sein de ce mouvement des soins palliatifs où on vient s'autoriser à se porter auprès de l'autre, à être dans une ouverture auprès de l'autre, quels que soient ses référentiels, pour reconnaître que la dimension spirituelle ou existentielle de la vie, c'est une potentialité pour chaque personne, qu'elle ait le référentiel religieux ou non, qu'elle soit dans le doute, qu'elle soit athée, qu'elle soit agnostique. C'est une potentialité et nous nous mettons au contraire à l'ouverture de cette potentialité, quel que soit le mode sur lequel va le vivre l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu étonnant dans notre monde, qui a une certaine conception, je dirais, de ce rapport-là au spirituel, que dire non, c'est une dimension de l'homme auquel on peut s'ouvrir. Je vous rappelle que par exemple, la Société française d'accompagnement de soins palliatifs avait fait il y a peu de temps son congrès à Grenoble qui était autour de la spiritualité. Donc non, c'est une dimension qui est ouverte. Mais dans cette assertion large, dans cette vision large, parce qu'en pratique aussi, je ne veux pas dire que... bien sûr, le référentiel religieux peut être extrêmement aidant pour certaines personnes, bien sûr, on est tout à fait d'accord, mais il l'est, par exemple, absolument pas pour d'autres. Dans cette assertion large, de se rendre compte que le champ du questionnement, en tout cas, le champ du questionnement sur le sens, il est vraiment souvent totalement réactivé, mais sous une forme qui est souvent une forme beaucoup plus dure et violente qu'une forme apaisée, d'ailleurs. Il est souvent réactivé par l'épreuve de la maladie grave et de la mort qui risque de survenir, et que nous ne pouvons, et en aucun cas, nous n'occultons ce champ-là.
C'est pourquoi je voulais rajouter, je vous passe la parole après, c'est pourquoi je voulais rajouter que l'association Jalmalve est une association laïque, Et dans la formation des bénévoles, on insiste là-dessus de façon à ce que les bénévoles, en fonction de leur valeur personnelle, puissent être ouverts, tolérants, respectueux de toutes les valeurs des personnes et qui sont d'autant plus importantes au seuil de la vie.
Alors, on a juste pour... ça me vient à l'idée en entendant tout ça. On a parlé de cris et chuchotements. Vous parlez de Mère Teresa. Moi, j'ai envie de vous parler du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Voilà, je crois que c'est le plus beau livre sur l'accompagnement. S'apprivoiser. C'est quoi apprivoiser l'autre? Et puis, voilà, relisez le Petit Prince.
Voilà, je crois que vous vouliez reprendre la parole.
Chacun son...
Et puis, on s'arrêtera là après ce...
On me donne le conseil d'être très bref, même peut-être de ne pas parler, je veux bien. Voilà. Mais je voudrais soutenir, moi, c'est le témoignage de cette personne. J'ai très, très bien connu cette situation, personnellement, souvent, en tant que médecin. Moi, je suis médecin de famille. Et qu'est-ce que j'ai vu? La puissance du témoignage. C'est-à-dire, on respecte l'autre. On reste en position de neutralité bienveillante, certes, mais... Toi, tu vas mourir, mais moi aussi. Nous sommes en position, tous les deux, de miroir, si vous voulez. Eh bien, ta mort, figure-toi, ne me fait pas peur, parce que d'abord, c'est la tienne. Je préfère entendre le glaçonner, comme disait le philosophe. Mais j'aime bien votre témoignage. Je le soutiens. Vous témoignez quelque chose, nous sommes aussi, nous avons droit, nous aussi, à témoigner. Mais je vais être très bref.
Merci.
Moi, je vais tout simplement vous dire mon sentiment. J'aimerais bien mourir près de vous.
Merci, on peut terminer.
Le plus tard possible, merci.
Merci, c'est vraiment la plus belle parole de fin qu'on puisse nous faire.
Nous allons nous quitter en remerciant donc Monsieur Hirsch, Monsieur Montaz et Madame Catherine Boisseau. Je vous rappelle que si vous voulez, il y a des revues que des bénévoles vendent. Nous aurons une prochaine conférence que nous avons déjà organisée dans ce lieu-là, le 3 février, dont le thème, ce sera « Vieillir ensemble ». Ce n'est pas aussi évident de vieillir en couple. Donc, en fait, on abordera ce problème-là avec Madame Michèle Wesch.
Beaucoup de monde, hein.
Je vous rappelle qu'on a besoin de vous. Donc, si vous voulez adhérer, vous pouvez.
Bonjour.
Il y a un atelier là sur l'hôpital. Ah, voilà, très bien. Oui, ah ben oui, j'ai pas pris le temps de.